Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Midi 55 sur RMC, salut à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant que Benoît Boutron ne prenne le relais pour le Multi Ligue 1. Manu Amoureux, c'est avec moi, membre de la Dream Team Foot de RMC. Salut Manu.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
J'espère que t'es prêt parce qu'il y a un gros programme qui nous attend. Le coup d'envoi dans quelques instants de Montpellier-Monaco. 10e journée de Ligue 1, les Monégasques très en forme en ce moment, veulent enchaîner mais aussi se préserver avant les nombreuses échéances qui les attendent. Kylian Mbappé a-t-il jeté un nouveau pavé dans la mare du PSG? La question de son positionnement revient sur le devant de la scène à la suite d'un post Instagram de l'international français. On décrypte tout ça tout à l'heure avec Arthur Perrault. Sans oublier l'info du jour en Ligue 1, Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL. Ça y est, Max Verstappen est à nouveau champion du monde au terme d'un Grand Prix du Japon plus que controversé. Le Néerlandais décroche son deuxième titre consécutif. Jean-Luc Roy sera avec nous pour revenir sur une course qui n'a pas fini de faire parler. Et puis du cyclisme avec Paris-Tours aujourd'hui et on espère une victoire française dans cette fin de saison avec notamment Christophe Laporte. C'est parti pour l'Intégral Sport. La Ligue 1 donc au programme avec dans moins de 5 minutes maintenant le coup d'envoi de Montpellier-Monaco avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Julien.
On parlait salut de la forme de Monaco, c'est vrai que les Monégasques enchaînent 4 victoires de rang en Ligue 1. C'est l'une des équipes en forme hein, Julien.
Ouais, porté en plus fait par Wissam Ben Yedder, hein, triplé contre Nantes, doublé en Coupe d'Europe. Wissam Ben Yedder qui avait eu quelques difficultés en début de saison. C'est vrai que les Monégasques finalement depuis cette surprenante défaite à domicile, Manu contre 3 où ils s'étaient inclinés 4-2, et ben depuis ils enchaînent, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat. Tu l'as dit Flora, 4 victoires, 10 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. Cette équipe de Monaco a trouvé son rythme de croisière avec ce système en 4-4-2. Et qui plus est, il se déplace à Montpellier où c'est un petit peu la bête noire, hein, Monaco pour Montpellier. 7 victoires pour les Montpellierains en 56 confrontations contre les Monégasques. Vous avez compris, la tâche s'annonce très compliquée pour des Montpellierains cet après-midi contre des Monégasques très en forme.
Avant le coup d'envoi, Julien, tiens, rappelle-nous les compos des deux équipes aujourd'hui.
Alors quelques changements côté Monégasque, tu l'as dit Flora, il y a un calendrier chargé, donc on fait tourner mais légèrement hein. Donc Nebel dans les cages, Vanderson, Disasi, Badiachil, Enrique pour la défense, Akliouche à droite, c'est ça la petite surprise côté Monégasque, Camara, Fofana, Golovin pour le reste du milieu de terrain, et devant Wissam Ben Yedder associé à Mbolo. Côté Montpellierin, Jonas Somlin fait son retour dans les cages, la défense, Nicolas Kotza à gauche, Enzo Chato à droite, Christopher Julien et Maxime Esteve en défense centrale, le milieu à 3 classique, Chotard, Ferry, Savagné devant Arnaud Nordin, Eli Wahi, et le retour également de Stéphie Mavididi qui adore marquer contre Monaco, qui était blessé depuis le début de la saison et qui fait donc son retour cet après-midi.
Manu, comment tu vois ce match aujourd'hui? Une nouvelle victoire des Monégasques?
Oh, pas sûr. Parce que Monaco, c'est vrai qu'il reste sur 4 victoires, mais bon, il faut toujours se méfier. Ils ont quand même pas mal combattu en Coupe d'Europe. La fatigue étant, je crois que les Monégasques, il faut qu'ils gèrent, si tu veux, ce match-là. Pas trop se précipiter, faire tourner le ballon, pas trop courir. Et Montpellier va essayer, lui, de mettre plutôt du rythme et d'aller presser très haut les Monégasques, parce que ils restent sur une belle défaite à Toulouse et qu'ils ont envie peut-être de redresser la barre chez eux.
Ah oui, Manu, tu parlais justement de ce calendrier aussi qui enchaîne. On a vu hein, le PSG et l'OM hier être accrochés et même perdre après les échéances européennes. Et c'est toujours compliqué à négocier ces matchs de Ligue 1 le week-end entre deux échéances européennes importantes. Ça peut être aussi un match piège du coup aujourd'hui pour Monaco.
Ça peut être un match piège, oui. Et puis on a vu hier soir le Paris Saint-Germain, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Même s'il y a eu pas mal de changements, ces changements n'ont pas apporté énormément. Et même avec l'OM où il y a eu des changements aussi, ça n'a pas apporté. Donc de la fatigue qui est là bien présente. Puis le moral, l'envie, c'est bien dans la tête, mais les jambes n'arrivent pas à suivre après.
Forcément, Julien, ça va forcément compter aujourd'hui dans ce match du côté de la Mosson. Le coup d'envoi dans 20 secondes maintenant avec toi.
Exactement. Et puis surtout que les Montpellierains, malgré les difficultés, sont une équipe offensive. Troisième meilleure attaque d'Europe. Ça marque à chaque but. Ça va poser forcément des difficultés à cet AS Monaco. On se rappelle de ce match contre Lille. Alors même si les Montpellierains, on l'avait suivi d'ailleurs ensemble, les Montpellierains s'étaient inclinés. Mais c'est une équipe, comme le dit Manu, qui est capable de mettre du rythme, d'emballer les rencontres. Surtout que sur les ailes, il va y avoir Mavididi et Nordin. Donc beaucoup de vitesse. Eli Wahi, on en reparlera peut-être durant la partie, mais qui est l'un des meilleurs jeunes aujourd'hui d'Europe, tout simplement. Il est sur les temps de passage de Karim Benzema dans le championnat de France. 18 buts marqués à peine 20 ans. C'est le seul Montpellierain qui a été titularisé à chaque rencontre. Et le coup d'envoi est donné à l'instant par les Montpellierains, avec déjà Enzo Château qui est parti sur son couloir droit, bien fermé par Caio Henrique. Et pour les gens qui ont les images, ne soyez pas surpris, les Montpellierains jouent en rose. comme à chaque mois d'octobre pour célébrer Octobre Rose. Exactement, les Montpellierains vont jouer tout le mois avec ce maillot rose, un maillot qui sera d'ailleurs mis aux enchères à partir de demain, et les fonds récoltés iront à Octobre Rose. Le coup d'envoi a d'ailleurs été donné par l'Institut du Cancer de Montpellier. Voilà, les Montpellierains qui sont, en tout cas le club de Montpellier, qui est très actif sur tout ce qui est associatif, et donc voilà, c'est pour ça que les Montpellierains sont en rose cet après-midi.
Oui, Julien, je crois aussi il y a les buts marqués, que ce soit
exactement, 250 euros.
Masculin et féminin. Même les féminines aussi. Hein. Exactement. Même au niveau des féminines. Hein.
Voilà, tout le monde est associé au sein du club. 250 euros par but marqué qui seront reversés à l'ICA, l'Institut du Cancer à Montpellier. Voilà les
et
œuvres.
Et pourquoi il n'y a que Montpellier qui fait ça, et pourquoi ce ne serait pas l'ensemble du football professionnel qui
pourrait
faire ça?
Ça peut donner des idées aussi aux autres clubs. Ouais. Effectivement.
Mais parce que Montpellier, c'est l'année dernière aussi, ils avaient fait ça, je crois.
Montpellier, ça fait depuis quasiment 4-5 ans, Manu, qu'ils font ça. Ils ont un fonds de dotation, en fait, ce que beaucoup de clubs ont aujourd'hui. Mm-hmm. Et chaque mois, il y a des nouvelles associations. Après Montpellier, par exemple, aussi, depuis maintenant 3 ans, à chaque but marqué, il plante des arbres. Donc 10 arbres plantés par but marqué depuis quasiment 3 saisons à Montpellier, dans la métropole montpelliéraine. C'est vrai que le club de Montpellier, en tout cas, est très engagé sur tout ce qui est association et défense pour tout ce qui est solidarité. Il y a aussi le bleuet de France durant plusieurs sessions dans la saison. Voilà, il y a plusieurs œuvres mises en place par les Montpellierains. Donc voilà, ça n'est pas surpris, ils sont bien en rose cet après-midi. Ce n'est pas un problème de maillot, c'est un choix délibéré du MHSC. 2-0-0 en tout cas à la Mosson après 2 minutes de jeu.
On voit bien la différence, en tout cas au moins, entre les Monégasques et les Montpellierains.
On peut pas se tromper là, Flora.
Ouais, voilà, exactement. Pour nous, Manu, ça va nous arranger.
Ça va être clair.
Ouais, être clair. Allez, raconte-nous un petit peu les premières minutes. Tiens, Julien, on s'observe un petit peu du côté de Montpellier.
Ouais, on sent que les Montpellierains, en tout cas, ils ont rapidement envie d'aller prendre la profondeur. Et on a vu Mavididi à gauche, Nordin à droite. On va rapidement chercher le dos des latéraux monégasques, parce que voilà, un petit peu comme Lille, c'est une équipe qui peut jouer très haut et qui peut être prise dans son dos. Olivier Dalloglio a mis de la vitesse, et c'est vrai qu'on a quand même 3 joueurs à Montpellier ce soir qui vont très très vite. Eli Wahi, on en parlait, Mavididi et Nordin. Eli Wahi qui a été flashé à 36 km/h cette saison. Donc voilà, il y a quand même de la capacité à prendre très vite la vitesse et d'aller essayer de piéger l'axe central monégasque, qui est costaud, et avec Dissasi et Badiachil, il va peut-être y avoir des possibilités pour les Montpellier, avec justement Savagné qui trouve Jordan Ferry qui passe la ligne médiane. Il y a beaucoup à jouer pour les Montpellier qui sont 4 face à 5 monégasques. On va décaler sur le côté droit pour Arnaud Nordin face à Caio Henrique qui va aller provoquer le défenseur brésilien. Le centre de Nordin, la défense de Caio Henrique, et ça sera le premier corner pour les Montpellier. Savagné, il aurait peut-être pu la donner en première intention à Eli Wahi qui avait rapidement pris la profondeur. Mais finalement, on a préféré attendre un petit peu et décaler Arnaud Nordin sur le couloir droit. La bonne défense d'Henrique qui va concéder le premier corner de l'après-midi. Et c'est TJ Savagné, évidemment, qui vont s'en charger. Et en plus, maintenant, côté Montpellier, on a aussi beaucoup de taille avec Christopher Julien et Maxime Estève, deux défenseurs centraux qui culminent à plus d'1m90 chacun. Donc voilà, aussi du danger maintenant sur les coups de pied arrêtés. Quand on connaît la qualité du jeu au pied de TJ Savagné, on peut se dire que Julien ou Estève, ils vont avoir des petites galères cet après-midi et courant la saison pour peut-être aller placer leur tête dans les surfaces de réparation. Le corner n'a rien donné, les Monégasques qui vont pouvoir se dégager après 4 minutes de jeu, 0-0 toujours ici à la Mosson, le ballon dans les pieds des Montpellierains.
On suit ce Montpellier-Monaco dans l'intégral sport sur RMC. On avait un œil aussi sur le tirage au sort à des phases de groupe de l'Euro 2024. On est à moins de 2 ans du coup d'envoi de l'Euro. Et ça y est, l'équipe de France est fixée, elle connaît ses adversaires. Jeannot Rességuier a suivi tout ça pour nous. Salut Jeannot.
Bonjour. Salut à Jeannot. Tous, ça va Florent? Salut Manu.
Ça va très bien, tu as suivi tout ça pour nous. Oui. On va quand même rappeler, Jeannot, que les Bleus n'étaient pas tête de série pour ce tirage au sort à Francfort.
Non, à cause de leur très mauvais parcours en Ligue des Nations. On le rappelle, ils ont terminé troisième de leur groupe derrière le Danemark et derrière la Croatie, pardon, et le Danemark. Du coup, dans le chapeau 1, on retrouvait les quatre qualifiés pour la finale à 4 de la Ligue des Nations, Pays-Bas, Croatie, Espagne et Italie. Et ensuite, dans l'ordre du classement de cette Ligue des Nations, qui était donc la référence pour les chapeaux du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse et Pologne, ce qui fait que la France était donc dans le chapeau 2. La France donc jouera contre les Pays-Bas pour ce qui est du premier adversaire tiré au sort en tant que tête de série. 28 confrontations, 13 victoires pour la France, 4 nuls, 11 défaites. La dernière confrontation, c'était en Ligue des Nations en 2018 aux Pays-Bas et une victoire des Néerlandais sur le score de 2-0. Ensuite, la France va retrouver la République d'Irlande. 17 confrontations, 8 victoires pour la France, 5 matchs nuls, 4 défaites. Dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'est en match amical avant la Coupe du Monde 2018, 2-0, victoire au Stade de France. Et 2009, bien évidemment, quand on parle de l'Irlande, c'est la main de Thierry Henry pour la qualification à la Coupe du Monde 2010. Autre vieille retrouvaille avec la Grèce dans le chapeau 4. 8 confrontations, 6 victoires pour la France, 1 match nul, une défaite. Dernière fois, c'était en amical en novembre 2006. Victoire de la France 1-0 au Stade de France. La défaite, la seule, l'unique, c'était lors de l'Euro 2004 au Portugal en quart de finale. Les Grecs s'imposeront lors de cet Euro, mais avaient battu la France en quart de finale sur le score de 1-0. Enfin, la petite surprise, la petite nouveauté du chef pour Didier Deschamps, ou pas d'ailleurs, puisque ça débutera le 23 mars prochain. Hein, on saura après la Coupe du Monde si Didier Deschamps reste sélectionneur ou s'il y aura un successeur. Eh bien, pour l'équipe de France, en tout cas, ce sera une nouveauté puisque ce sera la première fois que l'équipe de France jouera Gibraltar, une des toutes jeunes nations de l'UEFA, 200e au classement de la FIFA, qui a été refusée dans un premier temps, puis acceptée au mois de mai 2013, qui a participé à ses premières compétitions officielles avec les éliminatoires de l'Euro 2016 et qui a participé également aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 avec déjà la Grèce, puisqu'ils avaient été reconnus entre-temps par la FIFA en mai 2016. Ce sera donc la nouveauté, la petite curiosité. Le sélectionneur est uruguayen, il s'appelle Julio Ribas. Le championnat de Gibraltar est un championnat qui est dominé depuis très longtemps par Lincoln Red. Vous irez voir un petit peu sur internet, sur mcsport.fr, toutes les informations précises sur cette nation Gibraltar qui est sous influence britannique d'outre-mer, mais qui est tout en bas de l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle, parce que Gibraltar avait été tiré en premier, d'aurait dû donc être dans le groupe A reversé avec l'Espagne pour des raisons géopolitiques, et bien donc Gibraltar a glissé dans le groupe B et se retrouve comme adversaire de l'équipe de France.
Merci beaucoup Jeannot pour toutes ces précisions. On rappelle que l'Euro se déroulera évidemment en Allemagne, les qualifications à partir du mois de mars, t'en as parlé, et on verra évidemment si Didier Deschamps sera toujours à la tête des Bleus ou pas à ce moment-là. Merci beaucoup Jeannot.
Bon après-midi.
Merci, bon courage à toi, parce qu'on te retrouvera évidemment ce soir.
On n'en a pas entendu beaucoup parler de ce tirage au sort.
Eh bien non, c'est
j'ai
vrai, t'as raison de le dire.
Sous les yeux, là, il n'y a même pas une ligne comme quoi il y a eu un tirage où va y avoir.
Alors peut-être aussi c'est dû au fait que la Coupe du Monde se déroule là, au mois de novembre, Manu. Peut-être que ça brouille un petit peu les pistes pour tout le monde. Tiens, je veux t'entendre juste sur le principal adversaire des Bleus dans ce groupe-là, évidemment, les Pays-Bas. Oui. C'est vrai que quand on regarde l'effectif quand même néerlandais, il y a de quoi avoir peur.
Non, je crois pas. Tu sais, avant qu'on arrive à ce match-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a d'abord la Coupe du Monde au Qatar. Et puis, bon, il y a peut-être, hein, si Didier Deschamps gagne la Coupe du Monde, il sera peut-être encore sélectionneur. Sinon, il sera peut-être plus sélectionneur. Et ce sera un autre sélectionneur qui aura pris l'équipe de France. Donc, peut-être avec d'autres joueurs, d'autres schémas. Voilà, non, c'est vrai que ces deux équipes, normalement, devraient sortir de ce groupe-là. Sans problème, c'est vrai que l'équipe néerlandaise est une équipe très bonne, avec d'excellents joueurs, mais bon, en France on a aussi d'excellents joueurs, donc il ne faut pas avoir peur. Et je pense que ça sera des matchs très attrayants et beaux à voir.
Ouais, c'est vrai que les Pays-Bas, 8e nation mondiale, qui viennent de battre la Belgique quand même, Manu, c'est vrai qu'il y a des armes et à des armes néerlandaises. Mais tu l'as dit, c'est vrai que finalement l'euro, c'est encore aller dans deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. Ouais. Il peut se passer énormément de choses des deux côtés d'ailleurs.
Oui, complètement. Et puis bon, le 23 mars, il y a déjà quand même les premiers matchs de qualification. Donc voilà, non, il ne faut pas avoir peur. D'abord, concentrons-nous sur la Coupe du Monde. Le sélectionneur a déjà peut-être du mal à faire la sélection parce qu'il y a pas mal de blessés aujourd'hui. Ouais. Et est-ce qu'ils vont être rétablis? Donc voilà, attendons encore un petit peu avant de pouvoir se projeter sur ce championnat d'Europe.
13h10 dans l'Intégral Sport, on suit la Ligue 1 avec Montpellier, Monaco, Julien Landry. Où en est-on entre les Montpellierains et les Monégasques à la Mosson?
Toujours 0-0 entre les deux formations, on s'observe. Et pas de situation franche pour le moment, même si sur cette situation-là, sur ce débordement en tout cas d'Eli Wahi, je vous ai parlé de sa vitesse, le petit dribble, le passement de jambe, il a réussi à dépasser Disasi. Et Disasi, en tout cas, il a mis la main sur l'épaule de
Eli Wahi.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, Manu. J'ai été surpris, ouais, en tout cas, qu'il n'ait même pas eu appel à la VAR derrière. Parce que Disasi, il a quand même attrapé l'épaule d'Eli Wahi, il a ralenti. Et j'ai été très surpris, en tout cas, qu'il n'y ait même pas eu appel derrière, ou en tout cas vérification auprès du VAR. Derrière, les Monégasques sont repartis à l'offensive. Et là, Maxime Estève a fait une faute. Et il a pris un carton jaune pour la première faute des Montpellierains. Mais c'est vrai que sur cette accélération d'Eli Wahi, je vous ai parlé de sa vitesse, Disasi a été pris sur le reculoir. Et il me semblait bien qu'il avait touché, en tout cas, Eli Wahi. Et que ça aurait pu être checké par la VAR, ce qui n'a pas été le cas. Le jeu a repris derrière et il y aura un coup franc pour les Monégasques et un premier carton jaune sorti donc pour les Montpellierains, alors que TJ Savanier a été demandé des explications à monsieur Bastien Millot, l'arbitre de l'après-midi, sur cette situation qui pouvait prêter à confusion, Manu.
Ouais, mais Julien, ils se mettent quand même en difficulté, les arbitres. Ils ont aujourd'hui un outil, même si c'est pas eux qui doivent prendre la décision, le VAR, mais c'est l'arbitre central qui doit prendre la décision. Mais là, on le voit bien, Wahi prendre de vitesse Disasi, et lui il met son bras, donc il le ralentit et il a encore le ballon s'il reste debout Wahi. Donc il aurait pu aller le checker, prendre sa décision en voyant les images, et il a cet outil, qu'on s'en serve.
Ouais, c'est vrai que c'est surprenant, hein, parce qu'il a tellement été vite dans son choix à Millot qu'on avait pensé que Eli Wahi avait simulé. Mais lorsque nous, en tout cas, on a revu les ralentis sur nos écrans, on a bien vu le geste de Disasi, en tout cas sur le bras d'Eli Wahi.
En plus, c'était dans la surface de réparation. Mais si ça avait été au milieu de terrain,
il aurait sifflé fort.
Il aurait sifflé sans problème.
Voilà,
c'est ça qui n'est pas bien, parce que l'arbitre, il doit prendre ses responsabilités.
Allez, les Monégasques qui ont le pied sur le ballon avec Mbolo. Mbolo à 25 mètres qui rentre et qui trouve Ben Yedder. Ah, la petite talonnade de Wissam Ben Yedder qui a recherché Mbolo. Le ballon est perdu, récupéré par les Montpellierains avec le petit geste technique de TJ Savanier qui va décaler sur le côté droit de Château, qui lance loin devant Eli Wahi. Mais Axel Disasi était bien placé et il va retrouver Badiachil avec Enrique. Ils vont devoir évidemment regarder dans leur dos. Et cet après-midi, l'axe central Monégasque, parce que Wahi, il va prendre la profondeur dès qu'il en a la possibilité. Alors que là, cette fois-ci, c'est Mbolo devant la surface de réparation, pris par de Montpellier, hein, et avec Enzo Chato. Enzo Chato qui sert Mbolo, qui va s'en sortir. Mbolo physiquement impressionnant, qui arrive à rester debout. Et les Monégasques qui vont décaler cette fois-ci sur le côté droit avec Vanderson, le centre de Vanderson au point de pénalty. Et Enzo Chato qui n'arrive pas à toucher ce ballon et qui sortira en touche en faveur des Montpellierains. On a deux styles d'attaquants différents, hein, à Monaco. Ben Yedder dans la finesse et Mbolo dans la puissance. Il est quand même physiquement très impressionnant, Mbolo. C'est du costaud. Et là, on l'a vu d'ailleurs sur les deux.
Pas mal. Les deux petits ponts là qu'on suivit là, c'était quand même pas mal.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a dû. On se dit que les Montpellierains vont avoir du mal à le bouger. En tout cas, quand il est sur ses appuis avec la balle dans les pieds, c'est difficile de l'enlever. Et les Monégasques qui repartent à l'offensive. Est-ce qu'il y a une faute? Non. Alors que TJ Savanier est resté au sol sur un contact avec un Monégasque, un petit coup sur la cheville de TJ Savanier. Mais je pense que c'était involontaire. 13 minutes à la Mosson, 0-0 entre les deux formations.
Ça promet dans ce match entre Montpellier et Monaco. L'Intérasport revient dans quelques instants sur RMC. On va parler cyclisme avec l'une des dernières courses de la saison Paris-Tours. On attend Christophe Laporte, le Français.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 13h15 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On suit de la Ligue 1 avec Manu Amoros, la 10e journée Montpellier-Monaco. Julien Landry, pour le moment, statu quo entre les deux équipes.
Ouais, 0-0 après le premier quart d'heure, un quart d'heure d'observation, on va dire très clairement. Ni Omlin ni Nubel n'ont eu le moindre arrêt à faire, ce qui est surprenant, parce que Manu en parlait dans le match. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les Montpellierains attaquer très fort les rencontres. D'ailleurs, ils ont toujours ouvert le score cette saison. souvent dans le premier quart d'heure. Alors après, il y a eu quelques accidents, notamment du côté de Toulouse ou du côté d'Angers, où ils n'ont pas réussi à conserver cet avantage au score. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, Manu, de voir des Montpellierains démarrer plus fort leur partie, ou en tout cas mettre plus de pression sur l'adversaire. Ce soir, soit c'est tactique, soit ils sont gênés par les Monégasques. Attention, un seul ballon perdu devant la phase de réparation. Les Montpellierains vont pouvoir s'en sortir, Manu.
Ouais, je pense que c'est tactique parce que voilà, ils laissent plutôt la construction du jeu aux Monégasques. Ils veulent prendre en contre parce que bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, Yawahi, Mavididi et Nordin qui vont très 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 vite, donc ils peuvent prendre à défaut cette défense qui est bon, à part Yachil, mais Bissassi qui est quand même un joueur assez lourd. Donc voilà, ils veulent jouer en contre, et peut-être qu'en deuxième mi-temps ils vont peut-être changer et mettre davantage de pression, parce que là ils ont peur de se faire avoir sur un coup de que ce soit Ben Yedder ou Mbolo et dans le collectif monégasque. Donc voilà, il reste bien en place et de pas essayer de se faire prendre trop rapidement.
Après, ils ont toujours cette volonté de ressortir proprement le ballon, et deux trois fois on a vu des relances osées de la part des Montpellierains, avec des ballons perdus des fois un peu rapidement sur des relances de Homlin ou de Estève. Faut faire attention aussi à ne pas perdre les ballons dans ces zones dangereuses, parce que t'as parlé d'Embolo et Ben Yedder. Il va pas leur falloir beaucoup de ballons aux deux attaquants monégasques pour aller mettre une occasion au fond des filets. 17 minutes et encore une fois un ballon perdu, Manu.
Ouais, Julien, ils ont un rôle très important, que ce soit Nordin ou Mavididi. Ils ont un rôle très important parce qu'il y a Enrique qui monte un peu moins que Vanderson, mais Vanderson il monte énormément, donc il va falloir faire attention aussi au couloir. C'est pour ça que Mavididi et Nordin restent bien sur les côtés pour empêcher les deux pistons d'aller faire le surnombre.
Et attention à ce ballon perdu avec Fofana et le bon tacle de Christopher Julien, qui a bien laissé les mains collées au corps pour éviter toute suspicion.
Pas très académique, mais ça marche.
Il a tout laissé coller, il a dit je bougerai pas, même si tu vois, j'ai parlé trop vite, parce que pour le coup là, monsieur Mio, il vérifie, Manu. Regardez, moi des fois je comprends plus rien, parce que tout à l'heure il a absolument pas vérifié Disasi, et là de suite sur l'intervention de Christopher Julien, il a fait signe à tout le monde: attendez, je vais vérifier qu'il n'y a absolument rien. Et pour le coup, nous on avait bien vu sur le terrain qu'il s'était rien passé, et ben d'ailleurs le jeu va reprendre. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant, ces arbitrages et ces demandes de vérification. Le jeu va reprendre, il n'y avait absolument rien d'illégal dans l'intervention de Christopher Julien, et le ballon qui va donc revenir dans les mains de Jonas Omlin après 18 minutes de jeu, 0-0 entre Montpellier et Monaco.
Ouais, finalement, Manu, c'est vrai que on s'attendait à voir Monaco bien gêné aussi par Montpellier. Tu nous l'avais dit en avant-match. Et même si c'est vrai que Ben Yedder et Mbolo, on le sent, notamment Mbolo, sur ce début de match, que la moindre accélération, ça peut faire la différence. On les sent un petit peu gênés quand même, les Monégasques.
Ils sont gênés dans la finition. Ils sont gênés dans le mouvement, parce que ce soit Golovin ou Fofana ou Aulish, qui viennent pas assez chercher le ballon et laisser un petit peu des espaces pour que ce soit Vanderson ou Enrique qui rentrent dans leur dos. Donc voilà, il manque un peu plus de mouvement dans la finition, dans les phases offensives. Donc, mais bon, après il faut se régler aussi. C'est pas évident d'avoir un match joué tous les trois jours. Il faut rentrer dans le match, et c'est pas évident non plus de se mettre tout de suite dans le match. Même si on a envie, on a envie que l'entraîneur les pousse à ceux qui rentrent assez rapidement dans le match. Il y a un quart d'heure, 20 minutes, voire des fois plus, avant qu'on puisse rentrer dans le match. Ouais. Mais des fois c'est trop tard aussi, parce qu'on a pris un ou deux buts et on peut plus revenir.
On a vu hier l'OM en difficulté. Allez, temps, le score, Julien Landry à la Mosson.
19 minutes de jeu exactement ici à Montpellier, 0-0 entre le MHSC et l'ASM.
Vous avez vécu hier avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC le Tour de Lombardie et la victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui, l'une des dernières courses de la saison avec
et ton excellent Paris d'ailleurs.
Exactement, Julien, merci de le souligner. J'avais prévu la victoire de Tadej Pogacar, contrairement
beaucoup de risques,
à Arnaud Souk qui est sur place pour RMC pour nous. Salut Arnaud.
Salut les amis. Disons que je m'étais un petit peu couvert, voilà. J'avais observé qu'Henrik Maas était pas si mal que ça, et il m'a donné raison jusqu'au bout quand même.
Oui.
En terminant deuxième, à une roue de Tadej.
On va te rendre justice, effectivement. La saison de cyclisme, Arnaud, touche bientôt à sa fin. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui sur le parcours de Paris-Tours?
Bon, on dit classiquement que cette course entre Paris et Tours, enfin entre Chartres et Tours pour être plus précis, est une course réservée aux sprinteurs. Sauf qu'il y a eu un petit changement, on va dire, de parcours, de typologie de parcours ces dernières années. Les organisateurs trouvaient justement que cette classique perdait un petit peu de sa superbe. Alors ils ont voulu rajouter ce qu'on appelle les chemins de vigne. On passe en fait dans les vignes du Vouvray, et donc à plusieurs reprises, en l'occurrence à 8 reprises aujourd'hui, eh bien les coureurs vont devoir dans le final passer dans des chemins qui sont tout sauf bitumés. Ce sont des chemins gravillonneux, ce sont des chemins de Castine, ce sont des chemins terreux, ce sont des chemins où les crevaisons sont légion. Et on a observé depuis la mise en place de ces chemins de vigne, eh bien que les courses arrivaient beaucoup moins souvent au sprint, même n'arrivaient quasiment plus jamais au sprint, y compris même pour des petits groupes restreints. L'an passé, on a vu, c'était finalement un sprint à 4. Donc voilà, c'était vraiment, on peut pas vraiment appeler ça un sprint au final. On n'a même pas un groupe de 15 qui arrive. Non, c'est vraiment au plus fort finalement qui se bat pour la victoire finale. Et l'an passé, à ce petit jeu-là, c'était Arnaud Démare qui s'était imposé donc dans un sprint à 4 notamment.
Il y avait des Français l'année dernière, il y en a aussi cette année au départ, et tous les yeux sont tournés vers Christophe Laporte aujourd'hui.
Oui, alors vers Christophe Laporte, oui et non. Hein, effectivement, nos yeux de Français sont tournés peut-être vers Christophe Laporte parce qu'il a certes obtenu la médaille d'argent aux Mondiaux de Wollongong il y a quelques semaines en Australie. Mais déjà, il va y avoir d'autres Français hein, qui seront, à mon sens, un petit peu plus favoris que lui. Le tenant du titre, Arnaud Démare, évidemment, qui a toutes ses chances de briller aujourd'hui. Et puis, il y a un gros plateau en termes de sprint, ce qui veut dire aussi que cette course finalement eh bien, recommence à attirer du beau monde. On a donc la présence, on l'a dit, d'Arnaud Démare et de Christophe Laporte. On a la présence de Arnaud Delis, le jeune sprinter belge qui est une jeune pépite qui va eh bien, probablement dans les années à venir nous impressionner. Son aîné belge également, Jasper Philipsen, il y a Matteo Trentin qui est là, il y a Michał Kwiatkowski, Brian Cocard que je n'ai pas cité. Bref, il y a vraiment du beau monde aujourd'hui pour tenter de se disputer la victoire finale avenue de Gramont sur cette mythique avenue de Gramont, voilà, qui vraiment est une immense ligne droite pour l'arrivée. C'est un sprint, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin en tout cas un final, tout ce qu'il y a de plus classique, une flamme rouge, tout ce qu'il y a de plus classique ici à Tours.
Oui, tu as raison, parce que Christophe Laporte se décrit lui-même comme un outsider aujourd'hui. On a vécu les adieux de Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde hier sur le Tour de Lombardie. Aujourd'hui, bah, c'est au tour de Philippe Gilbert de dire au revoir au vélo.
Effectivement, c'est au tour de Philippe Gilbert de dire au revoir au vélo. Un autre quadra comme Alejandro Valverde. Il a fêté ses 40 ans sur le Tour de France, Philippe Gilbert, le 5 juillet dernier. Qu'est-ce qu'on retiendra de Philippe Gilbert? On retiendra d'abord que c'est un coureur hein, qui avait eh bien débuté sa carrière professionnelle dans l'équipe de Marc Madiou, l'équipe française de Marc Madiou. Il y a passé quand même un certain nombre d'années avant de retourner en Belgique, voilà, la Française des Jeux à l'époque. Donc c'est Marc Madiou qui lui avait donné sa chance. Philippe Gilbert qui se sera construit au fil des années, de ses années professionnelles, un palmarès absolument XXL. Il a été champion du monde en 2012, il a gagné quasiment tous les monuments, à une exception près Milan-San Remo, qui est donc le seul monument qu'il n'a pas gagné. Le dernier en date pour lui, c'était Paris-Roubaix en 2019, dans une course absolument sublime. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège, enfin bref, il a gagné l'Amstel Gold Race, il a gagné tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment l'un des hommes sur les courses d'un jour qui est le meilleur de sa génération et qui va nous quitter. Et il faut savoir que c'est un francophile aussi, voilà, il adore la France. Et il adore RMC, Philippe Gilbert, ça il faut aussi le dire. Donc peut-être qu'un jour, Flora, tu le récupéreras à tes côtés, pourquoi pas.
Oui, en consultant sur RMC, on le prend, Philippe Gilbert, avec plaisir. Merci Arnaud, on va te retrouver évidemment tout au long de la journée pour nous faire vivre ce Paris Tour sur RMC. C'est parti déjà, tiens d'ailleurs.
Effectivement, oui, c'est parti depuis ce matin. C'est parti, il était 11h55 quand le départ réel a été donné de Chartres. Donc voilà, la course qui ne s'est pas vraiment pour l'instant mise en route, ça ne saurait tarder. Les premiers chemins de vigne dont je te parlais tout à l'heure, Flora, ça sera à 67 kilomètres de l'arrivée, donc les premiers passages dans les chemins de vigne du Vouvray. Il faudra être là, ça sera aux alentours de 15h10, ça va commencer à bastonner à ce moment-là.
Eh ben, on sera au rendez-vous évidemment sur RMC. Merci beaucoup Arnaud et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
On continue de suivre la 10e journée de Ligue 1 dans l'Intégral Sport sur RMC, les 13h24, avec Julien Landry, Manu Amoros pour ce Montpellier-Monaco qui a un peu de mal à se décanter.
Ouais, mais il y aura un deuxième corner pour les Montpellierains sur ce coup franc. Ouais, il était bien frappé, Manu, par Télé Savanier. Il était dangereux au premier poteau. Et heureusement que Camara, il est venu mettre son pied, parce que Eli Wahi, il a vu ce petit caviar lui arriver sur son pied droit, enlevé au dernier moment. Il a le corner, Christopher Julien qui est venu mettre sa tête. Et ça sera de nouveau un corner. Mais oui, il va falloir suivre les coups francs Montpellierains avec Christopher Julien, Maxime Estève. Il y a de la taille, il y a du gabarit. Et là, c'est Christopher Julien qui est au premier poteau. S'était élevé plus haut que les défenseurs monégasques qui étaient venus placer sa tête. Il a beaucoup marqué quand il était à Toulouse, quand il était à Dijon. Et là, c'est Dissasi, Badiachil qui était venu au contact. Mais là, voilà, il va y avoir des duels en haute altitude sur ses corners montpellierains.
Il y a un sacré tireur aussi, hein, Savagnier. Ah oui. Il y tire très 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 bien, hein, que ce soit les corners et les coups francs.
Ouais, TJ Savagnier, il met le ballon quasiment où il veut, donc c'est sûr qu'avec Estève et Christopher Julien, il y a du danger. Il y avait aussi parfois Cazerie, même s'il n'est pas là. Et là, c'est frappé fort au deuxième poteau vers Nicolas Cosa qui remet le ballon dans la phase de réparation et ça va être dégagé par les Monégasques. Arnaud Nordin qui a voulu reprendre ce ballon de volée, mais ça sera récupéré par les Montpellier avec TJ Savagnier qui réclamait une main et monsieur Millot qui ne la signale pas. Et le ballon qui sera récupéré par les Montpellier avec Estève pour TJ Savagnier. Le contrôle amorti poitrine, le petit dribble derrière la jambe d'appui magnifique pour éliminer Caio Henrique. Et cette fois-ci, Henrique, il se met à la faute et il va prendre le premier carton jaune de l'après-midi sur ce petit moment offert par TJ Savagnier. Manu, le contrôle amorti poitrine, le dribble derrière la jambe d'appui. Il est capable de nous régaler, TJ Savagnier, quand il est comme ça. C'est un petit magicien.
Déjà, Henrique avait fait une grosse faute sur Mavididi quelques secondes avant, et là c'est mérité, hein. Et puis on voit la technique de Savagnier qui vient vraiment perturber le défenseur monégasque.
Et là donc de même coup franc quasiment Manu que tout à l'heure qui avait généré le corner où Fofana avait mis son pied juste devant Eli Wahi. On va voir comment va le frapper TJ Savagnier. On se rappelle que la saison dernière c'était du côté de Metz, il avait été capable de le mettre directement, hein. Il est capable de frapper directement TJ Savagnier.
C'est un peu compliqué quand même là, hein. Mais là il va le mettre entre le gardien,
il a frappé directement. Il en est capable et il avait mis exactement comme ça l'année dernière.
Il est prétentieux un peu là quand même, hein, prétentieux.
Parce que Il avait bien lu, mais dans cette position-là, à Metz, il avait cherché le deuxième poteau. La lucarne, ça avait fonctionné. Et là, il a tenté de prendre Nebel à revers en frappant directement fort au premier poteau. Mais Nebel a tranquillement capté ce ballon, Manu.
Ouais, mais c'est un peu dommage qu'il n'utilise pas la tête de Julien et d'Estève, parce que c'est de très bons joueurs. En plus,
la frappe de Caio Henrique, et ça sera boxé par Jonas Omlin qui n'a pas voulu prendre de risque de l'arrêter directement. Il a préféré la boxer et la récupérer de temps, cette frappe en première intention de Caio Henrique qui était cadré.
Du droit en plus.
Grosse frappe du Brésilien, et Omlin bien vigilant pour la première parade. Voilà, Florent, on avait dit que ce match avait du mal à se décanter, et depuis 2-3 minutes, enfin, on voit des situations de chaque côté. Toujours 0-0 après 27 minutes de jeu, on va dire légère domination montpelliéraine avec un Mavididi qui est en train de monter légèrement en puissance, avec Eli Wahi et Nordin qui posent des difficultés à l'arrière-garde monégasque, mais pour le moment, Monaco résiste. Et toujours 0-0 ici à la Mosson, et le ballon qui va être récupéré, même s'il y aura une faute d'Enzo Château sur Golovin, qui offrira un coup franc assez lointain au Monégasque. Flora, 28 minutes à la Mosson, 0-0.
Ça s'anime du côté de Montpellier, on va y revenir dans quelques instants évidemment, Manu, et puis on reparlera évidemment de l'info du jour. RMC Sport, Peter Boss n'est plus le coach de l'Olympique Lyonnais, on en parle dans l'Intégral Sport dans quelques instants. Restez bien avec Monsieur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Messi. 13h31 sur RMC dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. On suit la 10e journée de Ligue 1. Montpellier-Monaco, Julien Landry, ça s'anime un petit peu plus des deux côtés d'ailleurs. Hein.
Ouais, la demi-heure de jeu de passer depuis une petite minute, mais les Montpelliérains qui sont de plus en plus pressants, en tout cas sur la cage de Nubel. On a vu encore une fois une belle combinaison sur le couloir gauche entre Nicolas Cozza et Stéphie Mavididi qui s'est terminé dans la surface de réparation. Malheureusement pour Mavididi, il a été un petit peu court pour reprendre ce ballon qui traînait, et les Monégasques qui ont pu s'en sortir. Mais voilà, les Montpellierains, Manu, confirme en tout cas qu'ils dominent légèrement cette première période. Alors il n'y a pas eu d'occasion franche de chaque côté, mais on va dire que les Montpellierains sont mieux pour le moment dans cette partie, et qui dominent légèrement des Monégasques, qui manquent juste un petit peu la finition pour essayer de mettre en danger Nebel. Mais les Montpellierains font pour le moment une bonne première demi-heure.
Ouais, ils ont laissé un petit peu passer l'orage les premières minutes de jeu, puis là ils essayent de reconquérir le milieu de terrain parce que ils n'arrivaient pas à attraper le ballon par rapport au Monégasque. Donc là ils sont mieux organisés, et le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements, que ce soit les trois joueurs de devant de Montpellier, perturbe un petit peu cette défense et même le milieu de terrain, parce que on le voit reculer en permanence. Donc si Montpellier continue comme ça, ils vont sûrement ouvrir le score.
Ouais, ils viennent d'ailleurs de se créer encore une
une nouvelle situation avec sur le couloir droit et Nordin qu'on voit beaucoup avec Mavididi, les deux joueurs qui percutent, qui vont défier l'arrière-garde monégasque. Après on a du mal à trouver Wai pour le moment, mais voilà, on sent que les Montpellierains multiplient les offensives avec encore une fois Nicolas Cosa sur le couloir gauche pour Stéphane Mavididi, le dribble pour éliminer son adversaire avec Eli Wai qui n'a pas réussi à se mettre le ballon dans le sens du but sur le petit contrôle. Il n'a pas réussi à conserver ce ballon, mais le ballon est toujours en faveur des Montpellierains avec Nicolas Cosa qui va repasser derrière pour Chotard. On sent qu'il commence à y avoir des espaces, c'est quand même dans la défense monégasque. Mavididi, Wai commence à avoir des espaces devant eux. Cette fois-ci c'est Enzo Château qui a été servi dans la profondeur et qui sera signalé en position de hors-jeu, mais le danger se rapproche doucement de la cage de Nobel. Et c'est vrai que les Montpellierains, s'ils sont un peu plus réalistes, ils auront peut-être des situations d'ici la fin de cette première période. Il reste encore 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre Montpellier et Monaco. Légère domination pour les roses montpelliérains cet après-midi.
L'info du jour, RMC en Ligue 1, c'est Peter Bosz qui n'est plus le coach de l'Olympique Lyonnais. C'était chaud pour le Néerlandais après la mauvaise série de 5 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Manu, rien de vraiment surprenant, il n'y avait pas d'autre issue finalement?
Non, il n'y avait pas trop d'autre issue. Je crois que l'entraîneur ou l'ex-entraîneur de Lyon n'était pas compris par ses joueurs. Ils ne savaient pas comment... ils n'avaient pas de visibilité sur le schéma tactique que l'entraîneur voulait mettre en place. Donc... à la limite, quand on est joueur, on a toujours envie que ce soit le capitaine et quelques cadres aller voir l'entraîneur, lui demander un peu plus de visibilité sur ce schéma tactique. Mais il est resté enfermé sur ça et l'évolution n'a pas pris. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, les entraîneurs sachent aussi évoluer par rapport. Et on en a parlé avec Simon. T'étais pas là, Flora, t'étais en vacances, je crois. On en avait parlé avec Simon au niveau de l'entraîneur. Il faut qu'il y ait un dialogue en permanence avec eux. Donc,
attention avec Nordin. Attention à Nordin, espace de réparation. Nordin qui avance et qui va donner le ballon. Ah, il n'a pas réussi à servir Eli Wai et Stéphane Mavididi. Mais quel travail d'Eli Wai qui a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, qui a éliminé trois monégasques, qui a servi Nordin. Et derrière, Nordin qui avait fait le geste juste. Mais ni Wai ni Mavididi n'ont réussi à conclure cette situation. Mais encore une fois, Eli Wai, c'est vraiment un phénomène. Eli Wai, Manu, c'est incroyable encore ce qu'il vient de faire. La vitesse, il a réussi à éliminer, mais c'est pas terminé avec TJ Savagnier et qui sera bousculé par Caio Henrique qui va offrir un excellent coup franc à Montpellier. Et TJ Savagnier, il dit mais pourquoi il prend pas un deuxième carton jaune Caio Henrique, parce qu'encore une fois il me bouscule alors que je rentrais dans la phase de réparation. Et c'est vrai que Caio Henrique, Manu, tu l'as dit, il avait fait une grosse faute sur Mavididi, derrière il y a la faute sur Savagnier et là encore une fois il est dépassé.
Elle est légère, c'est Savagnier qui vient au contact, non, là, ça mérite pas vraiment le jaune. Ça mérite pas le jaune.
Mais on revoit l'axe.
Ouais, l'action, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable.
Hein. En contre-attaque, messieurs, en plus. Hein.
Ah ouais, Eli Wai qui a récupéré le ballon avant son rang central face à trois monégasques qui a accéléré.
Il anticipe un peu trop vite. Je crois que c'est Nordin ou.
C'est Nordin qui a le ballon et qui veut mettre ce petit ballon en retrait derrière.
Ah, Wai, il va trop vite peut-être.
Il
anticipe
un peu trop vite.
Ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à voir.
Il a eu du mal à ralentir Eli Wai, il a eu du mal à mettre les freins après le sprint. Mais c'est vraiment un phénomène. Eli Wai, 19 ans et 9 mois à peine, alors que c'est frappé rapidement par les Montpellierains. TJ Savagnier qui avait décalé Arnaud Nordin et le ballon qui va être récupéré par les Monégasques. 19 ans et 9 mois, Eli Wai, déjà 18 buts dans cette Ligue 1. Seul Mbappé a fait mieux au 21e siècle. Il a ex aequo avec Benzema, preuve de la qualité en tout cas de ce joueur-là. Attention aux Monégas qui ont récupéré le ballon, qui sont partis en contre-attaque avec Mbolo. Mbolo dans sa phase de réparation, la frappe d'Mbolo et ça sera contré par Zuris Chotard. Le match s'emballe et ça nous offre une bonne fin de première période. 7 minutes, 8 minutes encore à jouer à la Mosson. 0-0 Florent entre Montpellier et Monaco.
On garde un œil évidemment avec toi à la Mosson, Julien Landry. Juste on continue, Manu, de parler de l'info du jour. Peter Bosz qui n'est plus le coach de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que l'OL était ultra ambitieux au début de saison avec le recrutement, le retour de Lacazette, de Tolisso. Ouais. On se souvient des mots de Bruno Chéroux en conférence de presse. Et finalement, tu parlais de la relation compliquée aussi de Peter Bosz avec ses joueurs. C'est là où le bât blesse pour le coach néerlandais.
Ça dure depuis un moment, puisque l'année dernière, rappelle-toi, déjà, Olas se demandait quand est-ce qu'il allait le virer. Et puis, il a maintenu au poste jusqu'à la fin de la saison dernière.
Il a eu le soutien de ses dirigeants assez longtemps, finalement.
Ouais, c'est ça. Et c'est un peu incompréhensible. compréhensible parce que Aulas qui est assez percutant des fois et qui dit ce qu'il pense des entraîneurs, il les vire assez régulièrement et assez tôt. Là, il a maintenu sa confiance à l'entraîneur. Donc à partir de là, il s'est senti protégé. Mais à un moment donné, aussi, on peut dire que les joueurs sur le terrain, c'est eux qui jouent. Donc, ils peuvent modifier aussi des schémas tactiques que l'entraîneur leur impose. Non, on ne leur impose pas un schéma tactique, puisque après, c'est l'animation qu'on met, et après, c'est soit offensif ou défensif. C'est tout un ensemble qui défend, et c'est tout un ensemble qui attaque. Donc, à partir de là aussi, il faut que les joueurs sur le terrain prennent leurs responsabilités. Mais quand il n'y a pas des résultats, le seul qu'on vire, c'est l'entraîneur. Mais c'est vrai qu'il n'a pas mis non plus toute cette envie d'avoir un dialogue autour des joueurs pour pouvoir sortir les Lyon de cette mauvaise passe.
Selon nos infos, Manu, c'est Laurent Blanc qui est en pole position pour le remplacer. Signature possible, c'est même bien. Dès aujourd'hui, avec son adjoint Franck Passy. Bonne idée, selon toi?
Ah bah oui, c'est une bonne idée. Comme ça, au moins c'est un Français qui vient. Il est pas maladroit puisqu'il a prouvé en étant au Paris Saint-Germain avec des joueurs très compliqués, avec des forts caractères, que il peut entraîner une équipe comme Lyon. Donc ça fait du bien de voir un entraîneur français prendre un grand club de Lyon.
On verra ce que ça donne dans les semaines à venir, même les jours.
C'est pas facile quand même de prendre un club comme ça, parce que les joueurs,
il va falloir les
reprendre, discuter avec eux, les faire remonter au niveau du moral, et c'est un peu compliqué.
Allez, bon courage à Laurent Blanc, effectivement, si c'est lui qui arrive sur le banc de l'OL. Le temps, le score, Julien Landry, du côté de la Mausson entre Montpellier et Monaco.
6 minutes encore à jouer ici, 0-0 entre Montpellier et Monaco, et un coup franc intéressant pour les Monégasques, 35 mètres dans l'axe du but de Jonas avec Golovin ou Caio Henrique. C'est Caio Henrique qui va le frapper, mais évidemment il y a de la taille dans la défense montpelliéraine, et c'est Christopher Julien qui s'interpose dans les airs et qui va pouvoir permettre aux Montpelliérains de se dégager. 0-0 entre les deux formations, encore 6 minutes à jouer ici à la Mausson.
On va suivre la fin de cette première période entre Montpellier et Monaco, évidemment, dans l'Intégral Sport sur RMC, et puis on va revenir avec toi, Manu, aussi sur la première défaite de la saison hier après-midi pour l'OM face à Ajaccio. Restez bien avec nous sur RMC, l'Intégral Sport revient dans quelques instants.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 13h42 sur RMC. On suit la 10e journée de Ligue 1. Montpellier-Monaco. Julien Landry, un bon coup franc.
Oui, ça Ben Yedder, et ça passera juste à côté de la barre transversale du poteau de Jonas Omlin pour une grosse faute de Christopher Julien sur Golovin, pris par le contrôle de l'international russe. Julien qui s'est mis à la faute juste devant la phase de réparation, et c'est Wissam Ben Yedder avec son pied droit qui s'est chargé de ce coup franc non cadré, mais Jonas Omlin a poussé un petit ouf de soulagement. Ça partait très vite, il n'a pas réussi à redescendre assez vite ce ballon, mais voilà, c'est la première situation dangereuse finalement des Monégasques depuis le début de cette partie. Là, pour le premier, il y avait eu la frappe d'Enrique que Hamlin avait boxé, mais c'est vrai que les Montpellierains dominent et qu'ils ont eu la meilleure situation avec cette longue percée de Eli Wahi sur quasiment 50 mètres, et derrière la passe de Nordin en retrait. Eli Wahi était un petit peu trop en avant pour venir tromper Neubel, mais c'est pas terminé avec Mavididi qui lance dans la profondeur Arnaud Nordin qui va plus vite que Caio Henrique, qui arrive à repasser devant le Brésilien qui récupère le ballon. On est devant la phase de réparation des Monégasques avec Stéphie Mavididi qui rate un petit peu son contrôle, et ça va être Camara qui récupère ce ballon, qui va lancer dans la profondeur. Wissam Ben Yedder, le bon contrôle de Ben Yedder, mais le très bon retour d'Estève qui va passer avec Omlin et qui va dégager loin devant Jonas Omlin. Attention, le ballon qui est perdu, qui va être récupéré rapidement par Mbolo. Ouh là là, c'était dangereux parce que Wissam Ben Yedder était seul au point de pénalty. Et Christopher Julien, très bonne intervention du défenseur central montpelliérain pour empêcher Mbolo de trouver Ben Yedder. Il y avait danger sur cette relance de Jonas Omlin, mais voilà, le match qui s'est emballé dans cette fin de partie, et Monaco qui sort un petit peu de sa réserve. Ils ont été broyés un petit peu par les Montpellierains pendant 10 minutes, et là ils vont mieux juste avant le coup de sifflet de cette mi-temps. Encore une minute à jouer, 0-0 entre les deux formations. Attention à Monaco avec encore une fois à l'offensive, cette fois-ci c'est Fofana devant la phase de réparation entouré de 3 Montpellierains qui va passer derrière avec Van der Son, et ça sera finalement Joris Chautard qui va concéder la touche, la dernière minute du temps réglementaire. 0-0 entre Montpellier et Monaco.
Ouais, ils seraient bien inspirés quand même les Monégasques, Manu, là de se mettre un petit peu à l'abri juste avant la pause, mais en laissant pas serein.
Non, les sympas sereins, puis bon, il
beaucoup de pertes de
ballon. Avec encore une fois ballon perdu avec Eliway qui va décaler sur le côté droit. Nordin, et le bon retour de Badiachil. Il y avait un 3 contre 2 à jouer pour les Montpellierens, mais Eliway, il a mal joué le coup cette fois-ci. Il a cherché Nordin et le centre en retrait de Nordin. Il n'y avait pas Mavididi, il n'y avait pas Tejis Savagnier. Il a mal joué cette fois-ci Eliway, Manu, le coup, parce que il y avait un 3 contre 2 à jouer pour les Montpellierens et il n'a pas profité de l'appel de Nordin ni celui de Mavididi, et il s'est un peu précipité sur ce coup-là. Eliway, il avait sûrement mieux à faire.
Complètement. Et j'allais dire, les Monégas bénéficient de la maladresse technique des trois attaquants de Montpellier, parce que s'il y avait un peu plus de justesse technique, je pense qu'il y aurait eu déjà un ou deux buts pour Montpellier. Malheureusement, techniquement, le dernier geste, c'est pas ça. Et il devrait s'appliquer, parce qu'il y a vraiment des opportunités dans cette défense monégasque.
Ouais, ça manque de précision, exactement, dans ce dernier geste. Et on le voit encore, elle a Eliway qui avait récupéré un bon ballon, mais qui derrière l'a mal donné à Nordin, et derrière les actions s'arrêtent, et du coup Nobel n'a eu finalement pas grand chose à faire, hein. Il a été sauvé par Dissasi sur la percée d'Eliwayi, et depuis plus rien, alors qu'il y aura une minute de temps additionnel. Il reste donc 30 secondes à jouer dans le temps additionnel, avec Akliou sur le côté droit qui va centrer avec son pied droit, Estève qui va dévier ce ballon et ça va être contrôlé par Mbolo. Au point de pénalty, il en faut une situation pour les Monégasques sur ce bon travail sur le côté de Razak Rioux qui a centré, et Mbolo seul au point de pénalty. Il s'est pas posé de questions, et le coup de canon de Mbolo,
là il a tout mis, hein.
Là Omlin, il ne pouvait rien faire. Quatrième but de la saison pour le Suisse, mais quel coup de fusil au point de pénalty. Tu disais, Flora, qu'il serait bien inspiré de se mettre à l'abri juste avant la mi-temps. Ils t'ont écouté. Avec Mbolo sur ce ballon, quatrième phase de réparation, et c'est Ben Yedder qui le donne à Mbolo. Mais le coup de canon d'Mbolo au point de pénalty, Omlin ne pouvait rien faire. Et voilà Montpellier qui a dominé quasiment toute cette première période, qui a eu les meilleures situations et qui se retrouve donc mené 1-0 juste avant de rentrer au vestiaire sur ce coup de fusil d'Mbolo au point de pénalty. 1-0 pour la SM.
Ouais, c'est incroyable. Hein. Mbolo, il est tout seul dans la surface. Il y a 4 Montpellierens qui viennent défendre. Et personne n'attaque le ballon, personne reste. Et toute la défense est figée et elle ne bouge pas. Alors que Mbolo prend le ballon, il n'y a pratiquement personne. Même si Julien vient un petit peu, il aurait dû être, au lieu d'anticiper éventuellement ce manque de Ben Yedder, non, il aurait dû rester sur un bolo au marquage. Quand tu es défenseur, tu restes sur ton attaccant, tu te décales pas. Et là, ça profite à un bolo. Hein.
Ouais, et c'est la mi-temps.
Mais superbe but, hein, quelle frappe.
Quelle frappe. Il ne s'est pas posé question, mais c'est vrai qu'il a eu le temps, hein, de la placer. Tu l'as dit, c'est vrai qu'on.
C'est pas normal dans la surface, tu ne dois pas laisser l'attaquant prendre le ballon et frapper aussi simplement, je dirais, comme ça, quoi. Non, il faut être très actif et très rapide et sortir sur l'attaquant.
Après, il fallait se mettre en opposition, hein, devant la frappe d'Mbolo.
J'aurais
pas aimé la prendre dans le ventre, la frappe d'Mbolo, à mon avis. C'était sûrement pas très agréable. Et en tout cas, Mbolo permet à Monaco de mener 1-0 avec ce but juste avant la mi-temps. Son quatrième but de la saison. Et la SM continue donc sa très bonne série actuelle. Pour le moment, même s'il reste 45 minutes à jouer, la SM mène 1-0 à la mi-temps.
Merci beaucoup, Julien Landry. On va te retrouver évidemment pour la seconde période de ce Montpellier-Monaco. Manu, c'est bien parti, hein, pour les Monégasques, qui s'en sortent bien quand même dans cette première mi-temps où ils étaient un petit peu hésitant. Montpellier était plutôt séduisant d'ailleurs, et c'est la bonne opération là.
On disait tout à l'heure, c'est dommage que les trois attaquants de Montpellier soient maladroits au niveau technique, la dernière passe. Et c'est vrai qu'après, ça a profité à Monaco. Mais on les sent quand même assez fébriles, ces Monégasques. Au niveau du placement, du replacement au milieu de terrain, ils laissent trop d'espace entre l'attaque, le milieu et la défense. Donc voilà, il va falloir peut-être ajuster un peu tout ça pour Clément. Et ben Montpellier a été surpris sur un centre mal ajusté. Ben Yedder arrive à récupérer ce ballon, le pousse pour Mbolo, et Mbolo, une frappe monstrueuse qui presque troue les filets, quoi. Mais c'est dommage pour Montpellier, parce que il y a quand même beaucoup d'activités autour de Montpellier, c'est bien.
Et la seconde période à suivre évidemment d'ici un quart d'heure dans l'Intégral Sport sur RMC. Du cyclisme aussi en ce moment avec Paris-Tours, Arnaud Souk qui suit ça pour RMC. Où est-ce qu'on en est dans ces deux premières heures de course à peu près?
Absolument, 1h53, tout pile les coureurs qui sont donc partis de Chartres ce matin, qui arriveront à Tours tout à l'heure aux alentours de 17h. On a parcouru précisément 77 km 500, cela veut dire qu'il en reste 136. 5 hommes ont réussi à s'extraire du peloton, parmi lesquels 4 Français, Alexis Goujard, Romain Cardis, Clément Carizé et Maël Guégan. Il y a également le Norvégien Jonas Abrahamsen. Ils ont donc 5 minutes et 45 secondes d'avance au dernier pointage sur le peloton des favoris. Je vous rappelle quelques noms aujourd'hui qui pourraient pourquoi pas briller. Arnaud Démare, le tenant du titre, Christophe Laporte, le vice-champion du monde, Benoît Cosnefroy, Jasper Philipsen, Matteo Trentin, Michał Kwiatkowski. On a également Sam Bennett ou encore Anthony Turgis. Voilà des noms qui pourraient tout à l'heure pourquoi pas essayer de se disputer la victoire à venue de Gramont. Pour l'heure, il reste donc 135 km à parcourir. Et puis, je le rappelle, pour ceux qui arriveraient, qui prendraient en cours également, on n'a pas passé le gros des difficultés, vous le savez, c'est chemin de vigne tout à l'heure où les coureurs vont devoir prier pour ne pas crever sur les cailloux des vignobles du Vouvray.
Mais on est à Paris-Roubaix ou quoi? Qu'est-ce que tu nous dis?
Presque ça, presque ça.
On sera au rendez-vous évidemment sur RMC pour ce Paris-Tour. L'Intégral Sport revient dans quelques instants pour la seconde période de Montpellier-Monaco. Et puis je vous l'ai promis, le petit mot de Manu sur la défaite de l'OM hier face à Ajaccio. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. h 58 sur RMC, bienvenue dans l'Intégral Sport. Si vous nous rejoignez, je suis avec Manu Amoros. On est à la mi-temps de Montpellier-Monaco, 1-0 pour les Monégasques. Et avant de retourner du côté de la Mosson, Manu, puisque tu es là, tiens, comment ne pas t'entendre sur la première défaite de l'OM cette saison hier face à Ajaccio. Je suis sûr que tu devais être comme un dingue devant ta télé.
Ben oui, parce que je pense que Marseille avait le match en main. Ils se sont mis en difficulté tout seul.
Ils menaient 1-0, on rappelle.
Comment ?
Il menait 1-0.
Ouais, oui, il menait 1-0, un but sur penalty de Payet, et bon, il tenait le match. Malheureusement, sur pratiquement la seule occasion en première mi-temps, Ajaccio a su profiter des largesses défensives, hein, parce que là, on peut beaucoup parler des défenseurs qui malheureusement sont pas montés sur le porteur du ballon et l'ont pas empêché de frapper au but. Donc, mais c'est dommage d'être là. Et puis en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, il y a Balardi qui marque contre son camp. Mais ils auraient pu quand même insister pour revenir dans le match, parce qu'il restait encore pratiquement 45 minutes, parce que je crois que le but a été marqué en 47e. Oui. Donc ils avaient encore pas mal de temps. Mais ils n'ont pas mis vraiment de conviction, d'envie. Ils n'ont pas gagné beaucoup de duels. Il n'y a pas eu de cette agressivité que les Marseillais nous ont montré au fur et à mesure des matchs d'avant. Donc voilà, mais c'est dommage. Mais bon, le championnat ne s'arrête pas là non plus. Hein.
Mais c'est vrai que c'était surprenant parce qu'évidemment, c'était face à la Lanterne Rouge.
Exactement, c'est ça qui fait dur. Ouais.
C'est ça qui est difficile à digérer aussi pour les supporters marseillais. Il y a un calendrier de dingue aussi qui attend l'OM. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que disaient les critiques envers l'OM qui, jusque-là, oui, certes, avait un gros début de saison, mais n'avait pas forcément affronté des grosses équipes. Il y a un gros calendrier qui attend l'OM avec Nice, Lille et Rennes notamment à venir sur les matchs, avec évidemment la Ligue des Champions et le match face au Sporting. Est-ce que les choses sérieuses commencent aussi un petit peu maintenant pour l'OM, quand ça va être un petit peu dans le dur?
Ça commence. De toute manière, ils s'y attendaient. Il y a une préparation qui a été faite pour durer et jouer tous les trois jours. Donc il y a eu pas mal de changements aussi. Hier, on a pu voir Payet qui faisait son retour. Il y a eu Gerson aussi. Il y a eu Gay qui a joué. Mais bon, quand vous sortez Payet et Gerson au bout de 57 minutes de jeu, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Ces joueurs-là, ils peuvent vous apporter quelque chose. Surtout Payet qui a beaucoup de créativité dans le jeu. Il peut amener un soutien très important à Sanchez. Donc là, il les a sortis, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour amener un peu plus d'attaquants, mais ça servait, à mon avis perso, je pense que ça servait à rien. Il fallait attendre encore un tout petit peu avant de pouvoir prendre les décisions de changer ou pas. Mais c'est vrai que de toute manière, Marseille va être compliqué, parce que là il se déplace, je crois que c'est mardi,
mercredi soir
au Sporting, et ça va être un match très compliqué, parce que les Marseillais n'ont pas droit à l'erreur non plus, même s'ils ont gagné au match aller, ça va être compliqué. Donc il faut prendre des points et puis se remettre de cette défaite contre Ajaccio. Donc voilà, un travail psychologique va faire l'entraîneur auprès de ses joueurs pour être prêt mercredi.
Ouais, je parlais de Nice, Lille et Rennes, c'est les équipes qu'ont affronté déjà les Marseillais avec des victoires et un match nul notamment au programme. Le calendrier puis, pour Marseille, c'est le Classico aussi.
Ouais. Après le Sporting, il y a le Paris Saint-Germain aussi. Mm-hmm. Hein, donc ça va être
gros calendrier. Les gros matchs. Effectivement, on va retourner à la Mosson avec Julien Landry parce qu'il y a le coup d'envoi de la seconde période qui va arriver entre Montpellier et Monaco.
Alors pas de suite parce que les Monégasques sont pas là. Alors sauf si les Montpellierains donnent le coup d'envoi, du coup ils vont égaliser assez facilement. Ils vont égaliser facilement les Montpellierains pour le coup s'ils donnent le coup d'envoi là. Non mais ça y est, les Monégasques arrivent effectivement. Il y aura pas de changement côté Montpellierain. À mon avis, un changement côté Monégasque parce qu'on a vu des joueurs à l'échauffement à la mi-temps avec notamment Diatta qui devrait faire son entrée. Voilà, c'est Diatta qui va rentrer et à la place d'Akliouche qui va sortir, qui est auteur de la passe décisive. Et moi j'aurais été Philippe Clément, j'aurais peut-être même sorti Caio Henrique parce que il a déjà pris un carton jaune et que on l'a vu plusieurs fois en difficulté, que ce soit face à Nordin, que ce soit face à Château, voire même TJ Savanier qui est venu parfois un petit peu dans sa zone, et on sait que Caio Henrique a pris un carton jaune et ça pourrait relancer le match, en tout cas si les Monégasques venaient à être à 10. Eux qui mènent 1-0 depuis la 45e et ce coup de fusil signé Mbolo au point de pénalty, alors que les Montpellier avait globalement dominé ce premier acte. Ils avaient eu les situations les plus dangereuses, même si Nebel n'avait pas eu grand chose à faire, bien aidé par un grand Eliwahi, mais voilà, ça a manqué un petit peu d'efficacité dans la finition côté Montpellierin pour concrétiser les temps forts en tout cas de cette partie. Monaco mène 1-0, Manu, avec donc ce but d'Embolo. Il va falloir que les Montpellierins se réveillent pour essayer d'égaliser. Coup d'envoi donné à l'instant par les Monégasques avec Vanderson qui va décaler, donner le premier ballon directement à Diatta entre 3 Montpellierin qui va s'en sortir, et attention à ce ballon donné à Badiachil qui va écarter sur le côté droit pour Vanderson qui glisse mais qui va quand même conserver le ballon. Vanderson, le ballon dans la profondeur vers Mbolo et la bonne sortie de Jonas Somlin qui va récupérer ce ballon et décaler directement sur le côté droit. Endo Château reparti depuis 30 secondes, 1-0 pour la SM.
Ouais, quelle physionomie dans cette seconde période, Manu. Tu vois, Monaco pour le moment c'est la bonne opération. Oui. Il y a les grosses échéances à venir et forcément ça va jouer aussi dans la tête des Monégasques. Peut-être un peu de gestion et Montpellier qui pourrait en profiter.
Bah oui et non, parce que si Monaco fait de la gestion au niveau du collectif, c'est vrai que ça va être compliqué pour Montpellier, mais voilà, un match il faut que Montpellier enchaîne dans l'envie d'aller marquer ce but égalisateur, puis après essayer de gagner ce match-là, parce qu'ils ont pas le choix aujourd'hui. Maintenant ils doivent revenir au score, donc maintenant à Monaco de pouvoir gérer, que ce soit la fatigue d'avoir joué mercredi pour la plupart des joueurs, et puis aussi essayer d'aller mettre ce deuxième but, peut-être qu'il les mettrait à l'abri d'un retour de Montpellier.
Ouais. Monaco qui rejouera à Trabzonspor jeudi soir en Coupe d'Europe avant la réception de Clermont et un déplacement à Lille. Voilà pour les trois prochaines échéances pour les Monégasques. Mais c'est vrai que voilà, il y aura peut-être des joueurs qui vont rentrer plus tôt dans la partie pour faire souffler. Oui. Même si voilà, 1-0, tu l'as dit, Manuel, les Monégasques sont pas à l'abri. Surtout qu'on sait que Montpellier sur les 9 premières journées, ils ont toujours marqué au moins un but. Donc on peut penser que les Montpelliérains vont réussir à marquer un but. Surtout qu'il y a du monde sur le banc de touche. On pense à Fethou Mawasa qui fait son retour, à Wabi Kazri. Des joueurs à vocation offensive qui peuvent mettre en difficulté aussi l'ASM, même si c'est l'ASM qui a le ballon avec Golovin, mais il va se le faire chipper par Chotard avec Savanier qui va décaler sur le côté droit. Enzo Château qui va aller défier Caio Henrique, le ballon mis par Château dans la boîte et finalement sur la tête de Caio Henrique, et la touche jouée rapidement par les Montpellierains avec TJ Savanier qui va retrouver Enzo Château. On est toujours dans la zone de Caio Henrique pour Stéphie Mavididi, lui qui rate son contrôle, Stéphie Mavididi, mais Jory Chotard qui récupère ce ballon et la petite roulette de Jory Chotard et la nouvelle faute de Caio Henrique. Alors Manu, tu vas me dire qu'elle n'est pas grosse non plus celle-là, mais c'est quand même déjà la quatrième.
C'est la quatrième
faute pour Caio Henrique. Il y avait eu la grosse faute sur Mavididi, la faute sur Savanier, une nouvelle sur Savanier, cette fois-ci sur Jory Chotard.
Ouais, mais
non, mais elle est pas grosse.
Tu peux pas mettre un carton jaune à chaque fois que Henrique va faire une faute. Il faut vraiment qu'elle soit volontaire et assez agressive.
Je sortirais Caio Henrique.
Pourquoi pas, parce que c'est vrai que et d'ailleurs quand tu vois bien, que ce soit en première mi-temps ou maintenant en début de cette période, Montpellier joue de son côté. parce qu'ils veulent, ils veulent qu'il fasse des fautes et ils veulent que l'arbitre lui mette un carton rouge. C'est bien vu de la part de Montpellier, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la technique des trois attaquants qu'il faudrait qu'ils s'améliorent au niveau de leur technique en mouvement et surtout le dernier geste qui est approximatif pour l'instant.
Allez, le coup franc pour les Montpellier, hein. Tejus Savagné, il est un peu plus dans l'axe, alors légèrement excentré encore, mais il peut encore essayer d'aller chercher directement la cage de Neubel. C'est frappé par Savagné, ça passera au-dessus de la barre transversale de Neubel. Il avait encore joué, tenté sa chance directement. Alors il était mieux positionné que tout à l'heure, oui. Cette fois-ci, elle est passée au-dessus de la barre transversale de Neubel, qui va pouvoir se dégager. Mais voilà, je vais regarder du côté de Monaco si on va pas accélérer un échauffement, parce que Caio Henrique, à force, même si elles sont pas grosses ses fautes, mais la multiplication de petites fautes pourrait aussi inciter Philippe Clément à sortir son latéral gauche pour le protéger et permettre à son équipe en tout cas de terminer la rencontre à 11 contre 11. On est reparti depuis 4 minutes dans cette deuxième période, 1-0 pour l'ASM avec le but d'Embolo.
La 10e journée de Ligue 1, on en parlera aussi tout à l'heure avec le nouveau questionnement autour de Kylian Mbappé après ce post Instagram. On en parlera tout à l'heure avec les infos RMC Sport d'Arthur Perrault. Est-ce que ça jette un nouveau pavé dans la mare du PSG? Ce sera la question. On t'entendra aussi, Manu, sur ce sujet. 14h07 sur RMC dans l'Intégral Sport. On va parler Formule 1 puisque la F1 tient son nouveau champion du monde. Deuxième titre consécutif pour Max Verstappen à 4 Grands Prix de la fin déjà, mais dans la confusion la plus totale à l'issue d'un Grand Prix du Japon dont on se souviendra et pas forcément pour les bonnes raisons. Jean-Luc est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Flora, salut Manu, salut Jean-Luc. Bonjour à tous.
Je ne sais pas pourquoi je sens que tu vas avoir des choses à nous dire sur ce Grand Prix, mais on va essayer de prendre les choses dans l'ordre quand même. Le titre donc pour Max Verstappen, qui lui-même ne le savait pas quand il a passé la ligne. On va quand même rappeler, Jean-Luc, que la confusion vient des points attribués après la suspension de la course. Et je parle bien de suspension et non pas d'interruption, parce que le choix des mots est important dans le règlement.
Oui, absolument. Écoute, selon le règlement, a priori, dans la mesure où ils ont pu effectuer 28 tours, c'est-à-dire plus de 50% de la distance initiale, mais moins de 75%, on attribue normalement un barème spécial, enfin je vous en fais grâce, 19 au premier, 14 au deuxième, 12 au troisième, etc. Et malgré ça, on a découvert, enfin moi j'ai découvert, et je crois beaucoup de gens également, y compris les pilotes et les team managers, donc ça fait beaucoup, que la FIA a décidé d'attribuer la totalité des points. Ça, c'est le premier point que tu soulignes. Et puis le deuxième, on va y venir, je pense, c'est le fait qu'évidemment, Charles Leclerc ayant été pénalisé, l'écart est suffisant. Donc, Verstappen a été déclaré champion. C'est un peu dommage parce que ce titre, il est magnifique, il le mérite largement. Il a ultra dominé non seulement les essais, mais le Grand Prix de manière magnifique, en collant carrément une seconde à tous ses poursuivants par tour. Donc, il termine avec 26-28 secondes d'avance, qui est absolument extraordinaire, quoi. 27 secondes, pour être précis. Donc non, il a fait le boulot, il a ultra dominé, encore une fois avec la liste de victoires, ça fait 13 victoires dans la saison. Je crois que c'est un magnifique titre qu'il mérite amplement.
4 Grands Prix de la fin. On va continuer de parler F1 avec toi, Jean-Luc. Juste une info, RMC Sport, on vous en parle depuis le début de la journée. Peter Bosz n'est plus le coach de l'OL. Il est remplacé par l'ancien sélectionneur des Bleus, Laurent Blanc, qui a trouvé un accord avec l'OL. Laurent Blanc qui viendra avec son adjoint Franck Passy. Les derniers détails sont en cours de finalisation. On vous donnera évidemment toutes les infos au cours de la journée sur RMC. Mais donc Laurent Blanc est le nouveau coach de l'Olympique Lyonnais. Ça va vite du côté de Jean-Michel Aulas et de Lyon. Jean-Luc, l'autre polémique aujourd'hui, c'est aussi évidemment les conditions de course. Des torrents de pluie se sont abattus sur la piste. Du coup, sortie de piste justement de Carlos Sainz dès le premier tour. La direction de course décide de faire sortir la voiture de sécurité, puis d'interrompre la course au troisième tour. Sauf qu'entre-temps, Pierre Gasly, qui était rentré au stand pour changer d'aileron, repart en piste pour se placer derrière la safety car et croise à ce moment-là l'engin d'intervention qui était en train d'évacuer la Ferrari de Sainz. Les images sont saisissantes et rappellent évidemment l'accident qui avait coûté la vie à Jules Bianchi, ici même sur le circuit de Suzuka, il y a 8 ans. Pierre Gasly, très ému et excédé après la course au micro de Canal+.
De mon point de vue, je pense que c'est d'irrespectueux envers Jules, envers toute sa famille et envers tous ceux qui font de la course, parce qu'on en a déjà parlé des millions de fois, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et je vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent au stand pour mettre le tracteur sur la piste. Donc bien sûr que j'ai eu énormément peur, parce que si j'avais perdu la voiture en aquaplaning, je serais pas ici en train de répondre à vos questions. Et voilà, aujourd'hui je suis juste content de pouvoir parler à ma famille ce soir et pouvoir rentrer sain et sauf, parce que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça.
Jean-Luc, j'ai encore revu les images tout à l'heure. Il n'y a aucune visibilité pour Pierre Gasly. À ce moment-là, qui passe littéralement à un mètre de l'engin en question. Et parce que le commissaire de course, en plus, décale lui-même la voiture de Sainz pour pas qu'elle heurte celle de Gasly. Franchement, on n'est pas passé loin d'une catastrophe, là, encore une fois.
Absolument, Flora, tu as parfaitement raison. C'est une honte, c'est un scandale absolu, puisque tu l'évoquais, Jules Bianchi, avec sa Marussia, avait eu cet accident le 5 octobre 2014, et je l'avais malheureusement vécu en direct avec Patrick Tambay. On commentait la course en intégralité sur RMC. C'est un souvenir très douloureux, tant nous adorions Jules, qui était un garçon formidable et qui est décédé le 17 juillet suivant, des suites de ses blessures. Non, c'est scandaleux, parce que on nous, là aussi, le règlement est tellement pointilleux sur plein de points, on joue les juges inflexibles et on est censé appliquer un règlement immuable, et puis effectivement c'est plus qu'une faute, c'est extrêmement grave ce qui a été fait là. Je ne sais pas là aussi qui sont les responsables. Est-ce que c'est la direction de course, est-ce que
alors selon la FIA, en tout cas c'est Pierre Gasly, parce que lui il est comme 20 secondes de pénalité en plus. C'est le monde à l'envers quand même.
Oui, c'est ça. Alors, en général, ils font ça. Hein. Quand ils sont fautifs quelque part, ils sanctionnent. Ben oui, ils sanctionnent celui qui est la victime. Non, mais c'est absolument ahurissant. Je veux dire, les conclusions de la pseudo enquête qui avait été menée, puisqu'on en parle, et c'est extrêmement douloureux. Et je sais que beaucoup d'auditeurs d'RMC avaient été choqués après l'accident de Jules Bianchi, c'était qu'il roulait trop vite. Ben bien sûr, évidemment, quand on fait de la course automobile, on roule un peu trop vite. Effectivement, ça c'est une évidence. Non, c'est un scandale absolu. C'est une honte là aussi, comme d'habitude. Il n'y aura pas de responsable, il n'y aura pas de coupable, puisque tu te souviens que l'an dernier, on avait licencié violemment Michael Messi pour soi-disant le jugement qu'il avait mal rendu dans la dernière course. Je vais pas glisser d'une polémique sur une autre, mais ça fait partie de ces scandales, malheureusement, je dis bien malheureusement, qui font partie de l'histoire de la Formule 1, quand la FIA n'est même pas capable d'appliquer ses propres règlements et ses propres règles de sécurité. C'est une honte. Enfin là, on s'en sort bien, ça devient une anecdote, mais effectivement, Pierre aurait pu payer très très cher cette erreur coupable, à mon avis, des responsables, y compris la FIA. Voilà, je l'ai dit.
Ouais, mais Jean-Luc, il roule quand même à 250 km/h sous drapeau rouge. Est-ce qu'il y a un règlement qui dit aussi que quand il y a un drapeau rouge, on doit rouler à une certaine vitesse, mais pas à 250 km/h. Donc il a pris des risques très importants lui aussi, hein.
Oui, Manu, je suis obligé de te répondre oui, mais tu sais très bien, les pilotes, ce
mais
sont des sportifs.
Je suis d'accord avec toi de tout ce que tu as dit, hein.
Ben oui, ce sont des sportifs de haut niveau. Bien sûr qu'il aurait pas dû le faire. Ben oui, ben il l'a fait et personne l'a empêché de le faire. Donc comme tu le dis, on doit rouler effectivement à vitesse modérée. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû, bien sûr, rouler à cette vitesse-là. Ben il l'a fait et rien ne l'empêchait. C'est surtout l'engin qui aurait pas dû être là. L'histoire, on en revient toujours au même point. Alors je sais, il fallait évacuer la monoplace, il fallait évacuer la Ferrari d'urgence. Je le comprends. Effectivement, elle empiétait sur la piste, la Ferrari de Carlos Sainz après son accident. Bien évidemment. Oui, mais on en revient à la situation qu'on a connue il y a 8 ans, tu comprends, là aussi. Il fallait enlever la monoplace d'Adrian Sutil qui était sortie au tour d'avant. Bah oui, mais pas comme ça, voilà, c'est tout.
Et surtout qu'on avait... vas-y,
finis. Je t'en prie.
Non, mais surtout qu'ils avaient le temps, parce qu'il y avait le drapeau rouge et on savait que toutes les voitures allaient rentrer au stand. Donc on pouvait attendre que cet engin vienne débarrasser la voiture.
Exactement, c'est-à-dire que la direction de course, bon sang, comme tout le monde, on sait positionner les voitures, c'est même pas la peine de les voir, on les a de manière électronique sur un circuit, on sait où ils sont. Ouais. Donc ils savaient que Pierre avait quitté la voie des stands, puisque là aussi, et logiquement, on ne l'avait pas interdit de le faire, donc on savait qu'il allait faire le tour complet pour se repositionner derrière, pour rester en course. Bon, il l'a fait trop vite, certes. Enfin, écoute, encore une fois, touchons du bois, tout s'est bien passé, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui a dû le protéger. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Luc, ça risque de faire parler évidemment dans les semaines à venir, malgré, on va le rappeler quand même, le titre de champion du monde de Max Verstappen.
Je peux dire un petit mot à Jean-Luc ?
Allez, vas-y, rapide.
Pourquoi la pénalité à Leclerc de 5 secondes, puisque, ou 5 dixièmes de seconde, je ne sais pas comment tu dis, parce qu'il était devant Pérez, donc il n'a pas empêché de Pérez n'empêchait pas, enfin Leclerc n'empêchait pas Pérez de dépasser quand il a fait cette faute.
Alors oui, mais si tu veux, c'est-à-dire qu'il est revenu trop rapidement sur la piste, sur son élan, comme on l'a vu sur les images. Hein. Il a évidemment retardé son freinage à la dernière chicane, à l'ultime moment. Il a perdu un petit peu le contrôle, il a donc quitté la piste une seconde. Et logiquement, il aurait dû laisser passer de toute façon Pérez, parce que cette sortie de piste aurait dû le sanctionner naturellement, je dirais. D'accord. Voilà.
Oh, ce règlement, on ne vit plus les courses de la même façon.
Non,
c'est bien complexe ce règlement en F1.
Il faut regarder ça avec le bottin à côté.
Ouais, effectivement. Merci Jean-Luc, on sera au rendez-vous évidemment pour le prochain Grand Prix de Formule 1. On va retourner du côté de la Mosson, 14h16 sur RMC dans l'Intégral Sport. On suit la 10e journée de Ligue 1 avec Julien Landry. 1-0 pour Monaco. Julien, et c'est vrai que ça s'anime des deux côtés. On avait une grosse occasion pour les Montpellierains tout à l'heure.
Ouais, ça pousse fort. Et de la part des Montpellierains, très fort même avec Nordin, même si là, Golovin rentre dans la phase de réparation. Golovin qui défait Julien. La petite balle de Golovin et la belle intervention d'Enzo Château qui empêche Wissam Ben Yedder de récupérer ce ballon. Château qui va d'ailleurs être servi de nouveau par Omlin pour repartir vers l'offensive. Mais oui, les Montpellierains ont appuyé sur l'accélérateur depuis 10 minutes avec notamment TJ Savagnier à l'origine de nombreuses situations. Et là, c'est Eli Wai qui va être lancé dans la profondeur. Eli Wai face à Bayashi, l'entrée de la phase de réparation. Eli Wai qui trouve Stéphane Mavilidi qui va se mettre dans le sens du but avec ce petit contrôle orienté. Mais le ballon va être perdu, récupéré finalement par les Montpellierains. Mais non, il y aura une faute de Badiachi, de Mavididi sur Camara. Mais oui, les Montpellierains accélèrent, mettent la pression qu'on aurait pensé qu'ils auraient pu mettre d'entrée de match, ce dont ils nous ont habitués depuis quelques saisons à démarrer les matchs très forts. Et ben ils ont démarré cette deuxième période très fort avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses. Mais encore une fois, ça manque un petit peu de précision dans le dernier geste. Ouais. Même si la frappe de Nordin, elle avait été touchée par un Monégasque qui aurait dû avoir un corner que Monsieur Millot n'a pas vu. Les Montpellierains poussent, mais c'est bien toujours Monaco qui mène 1-0, Manu.
Oui, oui, c'est sûr que là, les Monégasques, ils sont quand même assez acculés. Ils essayent de jouer en contre. Heureusement que techniquement, ils n'ont pas trop de problèmes par rapport aux joueurs de Montpellier. Mais on sent Montpellier vachement pressant. Mais c'est un peu dommage aussi que tout le bloc défensif, quand ils défendent, ne monte pas assez rapidement quand il y a des belles actions où on arrive à développer avec Waïd, avec Mavididi.
La dernière demi-heure à la Mosson, Flora, 1-0 pour Monaco avec ce but d'Embolo juste avant la mi-temps.
Allez, l'Intégral Sport revient dans quelques instants sur RMC. On va parler de Kylian Mbappé qui a jeté un nouveau pavé dans la mare du PSG. Arthur Perrault sera avec nous pour nous donner les toutes dernières infos. Restez bien avec nous. L'Intégral Sport revient dans quelques instants sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 14h21 sur RMC. Salut à tous si vous nous rejoignez dans l'Intégral Sport. On suit la 10e journée de Ligue 1 avec Manu Amoros et Julien Landry du côté de la Mosson pour ce Montpellier-Monaco.
Ouais, toujours 1-0 pour les Monégasques. 64e minute de jeu, on a changé les ailes côté Montpellierain avec Mawassa qui a remplacé Nordin, Kazri qui a remplacé Mavididi, et c'est d'ailleurs Mawassa là qui a été servi sur le couloir gauche, qui a tenté un centre en première intention qui est passé largement derrière la cage d'Alexander Nubel, et les Monégasques qui vont pouvoir se dégager. Mais voilà, il y a eu un gros temps fort Montpellierain pendant 10 grosses minutes depuis plus grand chose, et les Monégasques sont un petit peu dans la gestion depuis plusieurs minutes. Manu, voilà, on sent qu'ils ont peut-être fait le plus dur en marquant juste avant la mi-temps, et que maintenant ils gèrent et ils se disent que les Montpellierains vont peut-être se livrer et qu'ils auront des situations plus le match va avancer, avec justement peut-être Wissam Ben Yedder dans la phase de réparation, bien défendu par Esteve qui va bloquer Wissam Ben Yedder, mais qui va s'en sortir, qui va passer derrière avec Diatta pour Vanderson à l'entrée de la phase de réparation, et le bon pressing défensif de Chautard, le ballon qui va être récupéré par les Montpellierains, et il y a un 2 contre 2 à jouer pour les Montpellierains avec le grand pont d'Eli Wai. Et là, il y a une grosse faute de Benoît Badiachil qui va s'en sortir avec un carton jaune. Alors oui, carton jaune, mais si on regarde la situation, Manu, Eli Wai, il avait pris le meilleur sur Badiachil et il aurait pu aller, alors non pas seul au but, et parce que
c'est pas le dernier défenseur. C'est pas le dernier défenseur, il y avait Dissasi qui est revenu.
Mais encore une fois, Eli Wai, la prise de balle dans l'avancée, le petit dribble pour éliminer Benoît Badiachil, le grand pont, et derrière, Badiachil n'a pas eu d'autre choix que faire une faute loin de son but, mais ils s'en sortent bien les Monégas sur ce coup-là. Ce qui est quand même fou, c'est que tu mènes 1-0 et de te faire contrer à l'extérieur par l'équipe qui est menée, c'est quand même surprenant. On disait qu'ils étaient dans la gestion, ils ont failli être punis à l'instant, mais ils s'en sortent bien, 1-0 pour Monaco.
Ouais, mais voilà. Ah ouais, vas-y.
Non, vas-y Manu,
je t'en prie. Mais je voulais dire juste parce qu'il voulait tellement marquer ce deuxième but qu'on a vu tous les Monégas pratiquement attaquer et ne pas sécuriser le milieu de terrain, quoi. C'est tout. Et puis en contre, ça va très vite et ça, ils n'arrivent pas à y penser. Mais il faut qu'ils y pensent parce que vous voyez, d'un moment donné, il va prendre l'espace, il va y aller tout seul.
Ouais, ils sont prévenus pourtant les Monégasques. On vous rappelle l'info RMC du jour en Ligue 1. Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ça y est, c'est signé. Selon nos infos, il remplace Peter Bosz qui a été licencié ce matin après les mauvais résultats de l'OL. On vous donnera évidemment toutes les infos sur la signature de l'ancien entraîneur parisien dans les différentes tranches sur RMC. Mais l'autre homme dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. La faute à un post Instagram du Parisien hier après le match nul du PSG face à Reims. Salut Arthur Perrault.
Salut Florent. Salut Manu. Bonjour. Salut à tous. Salut.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a bien compris que Kylian Mbappé n'est pas content du poste qu'il occupe actuellement au PSG.
Déjà, il faut rappeler le contexte de cette publication. Cela fait suite à ce match nul hier soir du côté de Reims, avec beaucoup de frustration et aussi un coup de sang, mine de rien, pendant cette rencontre, celui de Sergio Ramos, qui a écopé d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre, Pierre Gayoust. La raison, on la rappelle, c'est une insulte prononcée en espagnol. Derrière tout ça, une deuxième mi-temps aussi sous tension, avec des avertissements pour Neymar, Hakimi et donc Kylian Mbappé. Tout ça s'est un peu calmé, c'est très vite retombé ensuite dans le vestiaire parisien en fin de rencontre, avant que les joueurs ne passent en zone mixte, que les joueurs rentrent, prennent la direction de la capitale. Et ensuite...
En
Un peu partagé, pour ne pas te mentir, mon cher Manu. un peu partagé. Donc, cette publication publiée sur les réseaux sociaux par Kylian Mbappé, attention, parce qu'elle a été publiée une première fois.
On va rappeler quand même qu'est-ce qu'il dit dans cette publication.
Dans le texte, c'est match nul. Rendez-vous mardi donc pour le match de Ligue des Champions face à Benfica, et avec ensuite deux hashtags, deux mots-clés pour résumer. Le premier, ici c'est Paris. Et le deuxième, Pivot Gang, qui est assez explicite, puisque ça résume le rôle qu'a aujourd'hui Kylian Mbappé, c'est-à-dire ce rôle de numéro 9, de pivot. C'est un peu le nœud du problème aujourd'hui pour Kylian Mbappé, qui traîne un peu son spleen depuis quelques semaines. Le grand public le voit très bien. Bon, voilà, il fait un peu la moue sur le terrain, un peu sous tension. Ce qui explique un peu cette publication, c'est ce rôle qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Voilà, Kylian Mbappé, ce n'est pas Peter Crouch, ce n'est pas Olivier Giroud en équipe de France, et c'est vrai
ça, c'est ce que lui pense.
Ça résume en fait sa situation. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé tout seul aujourd'hui dans ce rôle de numéro 9. D'ailleurs, Christophe Galtier a tenté d'expliquer cela en conférence de presse, en disant qu'il était un peu orphelin de Neymar et de Lionel Messi, qui étaient blessés pour cette rencontre. Kylian Mbappé n'est pas à l'aise dans ce rôle-là. Lui, ce qu'il veut, c'est être sur un côté. Et d'ailleurs, ça fait écho à ses propos lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France, où après l'Autriche, il avait dit « Mais ici, je me sens beaucoup plus libre qu'en club. » Pourquoi ? Parce qu'il y a Olivier Giroud qui est dans ce rôle de pivot.
Effectivement, voilà. Manu, c'est vrai que c'est le gros débat en ce moment. On le voyait, hein, Kylian Mbappé, hein, sur les terrains, pas très heureux, râlé, manquait beaucoup de choses aussi. Et c'est vrai que la justification, alors c'est toujours un peu contestable de le faire ainsi sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de positionnement aujourd'hui pour Kylian Mbappé.
Moi je suis pas d'accord. D'abord, il y a pas la bonne attitude, parce que quand on est sur le terrain, on peut aller à droite, à gauche, et on n'a pas besoin de rester sur une position fixe comme hier soir, où Galtier a mis quand même quatre milieux avec Mukele sur le côté droit et avec Bernat qui jouait le piston. Ça fait pratiquement 6 joueurs à vocation milieu de terrain, on l'a laissé tout seul, et ces joueurs-là ne viennent pas aider Kylian Mbappé. Mais je crois aussi qu'il faut qu'il reste dans son football. Il se perd un peu trop dans des déclarations un petit peu pas fondées quelque part, parce que il dit son mécontentement, mais l'attitude qu'il a eue hier soir, quand il perdait le ballon, ben il marchait, il revenait pas, il se replaçait pas, il défendait pas. Donc c'est quand on a perdu le ballon, on fait un bloc, on défend tout le monde, surtout quand on est à 10. Donc l'attitude qu'il a eue hier soir n'est pas la bonne, et pas besoin après d'aller déclarer sur les réseaux sociaux que j'ai un mauvais positionnement, ou on n'est pas venu m'aider, ou alors je joue pivot alors que j'ai besoin peut-être d'un autre joueur un peu plus fixe. Non, d'abord travaille, joue, et après tu pourras parler. Pour l'instant, depuis le début de saison, il est très moyen quand même dans l'ensemble.
Et c'est vrai, Arthur, tu as parlé aussi avec l'entourage du joueur. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'il y a vraiment ce spleen autour de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il en a parlé même avec Christophe Galtier, plutôt que de mettre un message sur les réseaux sociaux?
Christophe Galtier, on a d'ailleurs parlé juste après ses déclarations lors du rassemblement avec l'équipe de France, la première conférence de presse du retour du Paris Saint-Germain. Galtier avait expliqué qu'il avait eu une discussion avec ses trois attaquants sur leur rôle. Et cette discussion, elle est intervenue dès la préparation au Japon l'été dernier. Ça montre bien que la direction parisienne est aussi consciente de ce problème-là. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a un joueur qui a été recruté pour être un vrai numéro 9. C'est Hugo Ekitike. Il n'a pas fait ses preuves pour sa première titularisation lors du match face à Nice au Parc des Princes. Hier, bon, Christophe Galtier
Il aurait pu le faire jouer hier.
Alors, il a été à l'échauffement pendant une bonne partie de la rencontre, Manu, mais finalement, il n'a pas fait son entrée en jeu.
C'était typiquement le genre de match.
C'est bien dommage. Il aurait pu partir avec un schéma tactique avec trois derrière, cinq milieux de terrain et deux attaquants.
C'est exactement ça.
Mbappé et Ekitike. Hein.
Après, voilà, il manquait de repères face à Nice, ce qui justifie un peu sa contre-performance. Il faut qu'il ait du temps de jeu, Hugo Ekitike. Et peut-être qu'avec ce changement de système et le fait qu'Hugo Ekitike soit là, et ce sera le jour et la nuit. Ce sera le jour et la nuit parce que Kylian Mbappé sera vraiment dans son rôle naturel, entre guillemets.
Donc le bien-être de Kylian Mbappé dépend d'Hugo Ekitike, c'est ce que tu nous dis.
C'est un peu ça. Ouais.
Effectivement.
Quand les deux autres ne sont pas là aussi, hein, quand Neymar et Messi ne sont pas là.
Ça. Donc après, comment on fait quand tout le monde est là sur le terrain? Où est-ce qu'on met Hugo Ekitike? Comment on joue? Qu'est-ce qu'on fait?
Et puis là, on a un Neymar qui
malheureusement il devient remplaçant.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Arthur pour les dernières infos du côté du PSG avec donc ce coup de gueule un petit peu de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. L'Intégral Sport sur RMC 14h30, merci d'être avec nous. On suit Montpellier Monaco avec Julien Landry. Ça s'est un petit peu tassé au niveau du rythme, où est-ce qu'on en est?
Allez, Montpellierin pousse et continue d'essayer de se montrer dangereux. Il y a eu le corner à l'instant des Montpellierins et Koza et Estef se sont gênés à la retombée de ce ballon. Il y a eu un centre de Mawassa et attention à Ben Yedder. Il me semble qu'il est en position de hors-jeu au départ, mais là il va essayer d'aller défier Jonas Omlin et la très bonne intervention de Jonas Omlin devant Wissam Ben Yedder qui permet aux Montpellierins de rester en vie dans cette partie. Wissam Ben Yedder qui s'était défait de Julien et d'Estef qui était parti à la limite du hors-jeu, qui était entré à la phase de réparation, et la très bonne intervention du portier suisse, mais c'est pas terminé avec cette fois-ci la frappe puissante de Fofana qui passera au-dessus de la barre transversale. Toujours 1-0 pour les Monégasques, mais les Montpellierains poussent, mais évidemment ils se livrent de plus en plus et il y aura des situations pour les Monégasques alors qu'Embolo vient de sortir remplacé par Boadu. Il me semblait quand même que Ben Yedder était hors jeu cette situation-là, on n'est pas revenu, mais pour les Montpellierains ça ne prête pas à conséquence parce que derrière Omlin s'est interposé. Il reste 17 minutes à jouer à la Mosson, 17 minutes pour les Montpellierains pour tenter d'aller égaliser, eux qui n'ont fait aucun match nul cette saison. C'est la seule équipe de Ligue 1, ils ont ou gagné ou perdu, 4 victoires 5 défaites. Et là le ballon pour Mawassa et la belle intervention de Caio Henrique qui va enlever le ballon de l'ancien Nîmois, ancien Rennais, alors qu'il me semble qu'il ne l'a pas, ouais, il me semblait que Mawassa n'avait pas du tout touché Caio Henrique sur ce coup là et que Caio Henrique s'est jeté par terre pour réclamer un coup franc, et je pense que monsieur Billot il s'est laissé avoir très facilement par le Brésilien. Je crois qu'il lui a touché le... sur le ralenti, il me semble qu'il a touché le pied. On va revoir Manu.
Ah bon?
Ouais, bon, vraiment, c'est léger.
En direct, c'est vraiment léger. Hein.
Bah, ah oui, mais même au ralenti.
Franchement, si tu siffles faute là, il faut arrêter de jouer au football. Il faut qu'il arbitre les amateurs, il verra un petit peu, franchement.
Il aurait dû rencontrer Manu Amoros, s'il aurait compris là.
Ah non, mais déjà il est très loin de l'action, il a qu'à se rapprocher un peu plus près de l'action. Et comment tu peux siffler un coup franc comme ça?
Allez, le temps de score.
74e minute à l'avance, minute d'applaudissement évidemment en hommage à Loulou Nicolin. 16 minutes encore à jouer. 1-0 pour Monaco, but d'Embolo juste avant la mi-temps.
On suit également l'une des dernières courses de la saison en cyclisme Paris-Tours avec Arnaud Souk. Est-ce qu'on est dans les vignes dont tu nous attends parler, Arnaud?
Pas encore. On vient de passer le point stratégique de Vendôme, mais le vent ne jouera pas aujourd'hui de son rôle. Hein. On aurait pu craindre des bordures du côté, par exemple, des équipes des favoris, mais le vent n'est pas favorable à des coups de bordure. La situation de course à 103 km 800 de l'arrivée. On a toujours 5 hommes en tête. Alexis Goujard, Romain Cardy, Clément Carizé, Maël Guégan et le Norvégien Jonas Abrahamsen. Il dispose de 6 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton des favoris. Dans lequel il se passe des choses. On a vu notamment Groupama FDJ venir se placer aux avant-postes. Évidemment, on contrôle la course du côté de l'équipe du vainqueur, du tenant du titre, Arnaud Démare. Et puis, il y a eu une chute il y a quelques instants qui a impliqué deux coureurs, le néerlandais Nicky Terpstra et le britannique Ben Turner, qui tous les deux ont été impliqués dans une chute. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, la situation, 6 minutes 30 de retard pour le peloton sur les échappées et les chemins de Vigne. Le premier, ça sera tout à l'heure à Limeré au kilomètre 146, donc si je fais le calcul, ça sera dans 36 km précisément, Flora.
On sera au rendez-vous, effectivement. Merci Arnaud. Et 14h34 bientôt sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC. Le défi hippique.
Salut Dimitri Blanc-L'Œil.
Salut Flora, bonjour à tous. On est parti pour le défi hippique. Et oui, effectivement. Alors, je rappelle la règle du défi hippique. Un auditeur va nous rejoindre dans quelques instants. Il va choisir un cheval dans le quintet. Moi aussi, ça sera à 15h15 sur les forums d'Auteuil. Et si son cheval termine devant le mien, il revient une nouvelle fois demain et il augmente sa cagnotte. On accueille tout de suite au 32-16 Patrice qui est avec nous. Salut Patrice.
Bonjour Dimitri, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bah écoute Patrice, bienvenue à toi. Alors les conditions du quintet, je les ai quelque peu présentées. C'est à Auteuil, c'est une épreuve de steeplechase, 3700 mètres. Il y a 18 partants, c'est très ouvert. Voilà, t'as choisi qui toi dans ce quintet?
Ben aujourd'hui j'ai choisi le 14, écoute en tête. Ils viennent de faire une rentrée prometteuse, se classant 3e dans une liste d'handicap. On retrouve à peu près les mêmes conditions, avec une distance un peu moins longue. Dans le bas du tableau, il offre de bonnes garanties.
Je t'avoue que si tu l'avais pas choisi, je l'aurais pris. Donc tu vois, on était tous les deux sur le même dossier. 7,80€ concernant cette cote. Moi, je vais partir sur le numéro 8, Blackfield, qui est à peu près coté pareil, hein, qui a terminé 5e de son seul quintet sur la distance qui nous intéressait, et même sur le parcours. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Je vais peut-être aller du côté de Manu Amoros. Est-ce que Manu, tu dis ce quintet toi?
Ouais, je partirai. Le terrain, il est comment? Il est souple? Très souple.
Aujourd'hui, il est annoncé très souple. Pénétromètre. 4.
D'accord. Ouais, je partirai sur le 10, moi, d'Antor des Hobos.
D'accord, ok. Bah écoute, il est à combien? Attends, je regarde le numéro
9€.
Tu proposes même 10€. Bah écoute, s'il gagne, Manu Amoros vous fait gagner x10. Pas mal.
Au niveau de la cote. Mais on n'est pas en forme en ce moment. Alors.
Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. C'est 15h15 oui. Sur l'hippodrome d'Auteuil. Patrice, c'est noté. Tu as choisi donc dans cette épreuve le numéro 14. J'ai choisi le numéro 8. Et au cas où, Manu Amoros peut se caler avec ce numéro 10 d'Hunter des Hobos. On se retrouve tout à l'heure, Flora. 15h15, donc Auteuil, le commentaire du quintet en direct sur RMC.
Merci beaucoup, Dimitri.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, l'Intégral Sport est de retour dans quelques instants. 1-0 pour Monaco face à Montpellier. On va vous présenter les affiches qui vous attendent tout à l'heure à 15h dans le Multi Ligue 1. Restez bien avec nous sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
14h40 sur RMC, dernière ligne droite avant de laisser la main à Benoît Boutron pour le Multiligue 1 qui vous attend à 15h. Julien Landry du côté de la Mosson pour ce Montpellier-Monaco. Et il y a un but un petit peu dans la confusion hein, pour les Monégasques.
Ah bah, le but a été finalement accordé à Monaco. But de Boadu qui avait remplacé Mbolo après un bon centre de Caio Henrique. Et voilà les Monégasques qui vont se mettre à l'abri. Mais c'est vrai que sur le premier plan qu'on nous a offert, on semblait que Boadu avait un mètre d'avance, largement hors jeu.
Ouais.
Alors l'axe, la caméra était sûrement pas dans l'axe. Et du coup après sur un autre plan, avec les fameux petits pointillés qui nous montrent le genou par rapport à la cuisse, on a vu que Boadu n'était pas en position d'hors-jeu, ça se joue à 1 ou 2 cm à peine et du coup ben Monaco mène 2-0 avec ce but de Boadu sur ce centre de Caio Henrique et les Montpellierains qui ont fait leur dernier changement avec la rentrée de Germain et de Fayad. Évidemment la donne est largement plus compliquée maintenant, eux qui avaient poussé fort au début de deuxième période, au milieu de la deuxième période sans réussir à égaliser et Monaco finalement ils ont eu 3 situations et ils ont marqué 2 buts, une fois Mbolo, une fois Boadu. Omlin était interposé devant Ben Yedder, mais c'est pas suffisant avec la sortie là de Caio Henrique remplacé par Ismaël Jacobs. Mais les Monégas vont continuer leur série de victoires à la 5e d'affilée pour les l'ASM, même s'il reste encore 10 minutes à jouer. On voit pas trop comment les Montpellierains vont revenir à cette partie, Manu.
Oui, là je pense pas. Déjà, même s'ils ont eu des situations, Montpellier, c'est que des situations, ils n'ont pas assez été dangereux devant le but, ils n'ont pas mis en difficulté Nubel et les Monégasques par leur jeu collectif et par ce centre que c'est vrai que tout le monde en croyait au hors-jeu, mais il y avait le pied de Julien qui traînait par là et qui a remis en jeu le joueur monégasque et qui est venu couper la trajectoire de ce centre et au premier poteau. Donc quelque part en deuxième mi-temps, même Monaco a géré tranquillement et resté sous pression des Montpellierains, mais sans vraiment réelle occasion de Montpellier. Et c'est dommage parce qu'ils avaient un bon coup à jouer quand même, Montpellierains.
Ouais, il reste en tout cas 6 minutes à jouer, Flora, ici à la Mosson. Et l'ASM mène donc 2-0 avec des buts de Mbolo et de Boadu, même s'il a le ballon à se faire de réparation pour Kazri. Et la belle intervention d'Alexander Nubel qui enlève le ballon de Wabi Kazri qui avait essayé de s'emmener le ballon avec le petit contrôle du bout du pied. Mais la très bonne intervention du portier allemand permet au Monégasque de conserver ce score de 2 buts d'avance. 2-0 pour l'ASM, encore 10 minutes à jouer.
Ouais, belle journée de Ligue 1 sur RMC avec ce Montpellier-Monaco. Lille lance ce soir à 20h45 dans l'After. Et puis le Multiligue 1 à 15h avec Benoît Boutron dans l'intégralité. intégral foot. Quatre affiches au programme et notamment Nice 3. Maxime Tillet est avec nous. Salut Maxime.
Salut Flora, Maxime. Bonjour à tous. Salut Manu.
Nice n'a toujours pas gagné un domicile cette saison, on le rappelle. Pas le moindre but marqué. Alors l'attaque niçoise cette saison, c'est catastrophique.
Ouais, cata. D'ailleurs, les trois dernières réceptions, tu le disais, contre Marseille, Monaco et Angers, ça s'est soldé par des défaites sans marquer le moindre but. Nice est d'ailleurs, depuis hier soir, et la victoire d'Ajaccio à Marseille, la pire attaque du championnat avec seulement 6 buts marqués après 9 journées. Donc on attend un réveil aujourd'hui face à 3, mais attention, l'Estac est plutôt en bonne forme. 3 vient de remporter 2 de ses 3 derniers déplacements. Et d'ailleurs, l'Estac est devant Nice au classement, 12e avec 11 points, le Gym 13e avec seulement 8 petits points. Donc on attend un réveil ici à l'Alliance de Riviera.
Merci beaucoup Maxime et à tout à l'heure pour le Multi Ligue 1. Un beau derby breton aussi au programme Brest-Lorient. Timothée Mémon, salut Timothée.
Salut Flora, salut à tous.
Salut Timothée.
C'est le choc des extrêmes aujourd'hui. Pourquoi ? Entre l'équipe en forme du moment, Lorient qui peut revenir, on rappelle, sur les talons du PSG en cas de victoire, et puis Brest, 19e du classement.
Absolument. Il y a pas vraiment de question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut suivre cette rencontre. La question elle-même offense le brillant jeu produit par le FC Lorient et le travail réalisé par Régis Lebris. Le FC Lorient est 3e du classement à 4 points du PSG et peut passer 2e du classement, passer devant l'Olympique de Marseille qui a calé. Alors pourquoi suivre ce match ? Eh bien parce qu'après 10 journées ou presque, Lorient c'est le principal concurrent du Paris Saint-Germain et mord les chevilles du champion de France. On en rigole, mais sur le podium à la 5e journée, c'est anecdotique. Sur le podium après plus d'un quart du championnat, et bien ça ne l'est plus. Et puis un match à suivre aussi, parce que ce match est capital pour Brest qui est en péril, 19e du classement. Tu l'as dit, c'est un grand écart cet après-midi à Francis Leblay. Le stade brestois doit réagir. Michel Derzakarian est sous pression, on attend de voir s'il y a une réaction de la part des joueurs brestois ou si inversement ceux-ci semblent vouloir un petit peu lâcher leur entraîneur.
Merci beaucoup Timothée pour les enjeux de ce Brest-Lorient et à tout à l'heure dans le Multi Ligue. Tout de suite sur AMC, on parie sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Julian Boubnov. Salut Julian.
Salut Flora, salut Manu, salut tout le monde.
Quels sont les cotes pour ce match aujourd'hui ?
La victoire de Brest, et ils sont donnés vainqueurs. Brest, 2,35.
Ah ouais, ouais,
2,35, la victoire de Brest. 3,40 le nul et 3,20 pardon, la victoire de Lorient. Timothée l'a dit, Lorient, c'est une surprise du début de saison. Sur les 6 dernières confrontations entre les deux équipes, c'est très équilibré. 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 2 victoires par contre sur les 11 derniers matchs de Brest à Francis Leblay, donc c'est un petit peu compliqué. Je vais quand même vous proposer Lorient ne perd pas et les deux équipes qui marquent à 2,45.
Manu, quel est ton pari pour ce match ?
Alors moi c'est les deux équipes qui marquent et Lorient qui est vainqueur.
Et c'est une très belle cote Manu parce que c'est 4,90. Peut-être proposer également Terem Mofi buteur à 2,95 pour pallier l'absence de Dango Ouattara en attaque.
Ouais, pas mal du tout, on note tout ça. Merci Julian et tous les paris évidemment à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Nice 3 et Brest-Lorient à suivre dans le Multi tout à l'heure à 15h, tout comme Clermont, Auxerre et Angers et Strasbourg dans le Multi Ligue 1 avec Benoît Boutron. Avec Manu Amoros, on va suivre la fin de ce Montpellier-Monaco avec Julien Landry du côté de la Mausson, même si ça semble un petit peu plié quand même pour les monégasques.
Ouais, les Montpellierains, ils ont pris un coup derrière la tête avec ce but de Boisdu en laissant la tête basse depuis quelques minutes. Et là, il va y avoir un excellent coup franc en plus pour Monaco sur cette faute de Christopher Julien. Un coup franc dans le petit arc de cercle devant la surface de réparation, même s'il y a quelques discussions pour savoir qui va frapper ce coup franc côté monégasque. C'est Vanderson qui avait pris le ballon, Golovin a été lui arraché des mains. Heureusement qu'il joue pas au PSG, sinon on en aurait fait une semaine entière. Et du coup, après Vanderson, il a pas dit son dernier mot quand même, parce qu'il est quand même toujours devant le ballon. Et là, il est en train de discuter avec Golovin. Et je sais pas qui va frapper le coup franc, le pied droit de Golovin ou le pied gauche de Vanderson. Je mettrai quand même une petite pièce sur Golovin qui a créé en plus ce coup franc et ça passera largement au-dessus de la barre transversale. Et Vanderson qui lui a rien dit, il aurait pu dire, tu vois, si ça avait été moi je l'aurais mis dedans. Mais on en reste en tout cas sur ce score de 2-0 pour les monégasques. Mais oui, on sent que ce but de Boisdu, Manu, il a mis un gros coup derrière la tête aux Montpellierens qui ont quasiment, on va pas dire baissé les bras, mais qui mettent beaucoup moins d'allant depuis quelques minutes pour essayer d'aller marquer ne serait-ce qu'un but.
Ouais, ils savent que le match est plié, remonter de but en quelques minutes, même s'il y a 3, 4, voire 5 minutes d'arrêt de jeu, ça va être compliqué pour Montpellier qui, on le voit bien, n'a plus de cette agressivité qu'ils avaient en début de match, hein, parce que ça aurait été une autre façon de voir les choses si cette faute de Disasi avait été sifflée contre Wai. Là, ça aurait pu changer, mais là, malheureusement, non.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la faute de Disasi sur Wai et puis cette situation, hein, cette grosse situation avec cette percée d'Eli Wai mal conclue avec Nordin, les Montpellierens.
Ils vont avoir beaucoup de regrets, les Montpellierens.
Ouais, parce qu'ils auraient pu avoir les situations, en tout cas pour ouvrir le score. Ils n'ont pas réussi et juste avant la mi-temps, Mbolo les a crucifiés avec ce but alors qu'ils n'étaient vraiment pas mis en danger sur cette première période. 4 minutes de temps additionnel. Le ballon pour TJ Savagnin à cette phase de réparation qui ne va poser aucun problème à Nobel qui va le contrôler tranquillement et qui va relancer à la main vers Vanderson et les Monégasques. Tu en avais parlé en début de match, Manu, qu'il fallait alors pas forcément faire du coaching, mais gérer les efforts ce soir et on sent qu'ils les ont gérés leurs efforts dans la gestion du match. En tout cas, ils n'ont pas fait de course inutile, ils n'ont pas eu à courir après le score. On a l'impression que c'est une après-midi parfaite pour le coach Clément. Une victoire, un peu de coaching, deux buts, aucun encaissé. Juste avant la Coupe d'Europe, la série Monégasque en tout cas se continue.
Ah, c'est vrai que Manu, quand on voit cette équipe-là, Monaco, il y avait eu un début de saison un peu plus délicat. Et puis là, on sent qu'ils sont sur leur lancée. Ils ont peut-être trouvé aussi, avec ce 4-4-2, Philippe Clément, il a trouvé son système et ça perdure dans ce sens-là.
Oui, c'est un peu normal. L'entraîneur, il y a quand même eu pas mal, je crois, de mouvements intersaison. Donc, il fallait qu'il trouve un petit peu.
Comme souvent à Monaco,
il fallait qu'il trouve un petit peu son équipe type. Et après, avec l'enchaînement des matchs, changer quelques éléments pour se faire souffler certains. Et puis voilà, la machine est bien. Mais bon, on ne sait jamais. Il faut que ça continue comme ça. Il ne faut pas avoir beaucoup de blessés parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de saison. Il va falloir voir quand il y aura des blessés si Monaco va pouvoir continuer comme ça, mais bon, on l'espère parce que ils ont quand même une équipe où ils maîtrisent bien le ballon. Il y a une équipe très collective, ils défendent bien et collectivement, c'est quand même très 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 intéressant ce qu'ils font.
Ouais, et puis c'est une équipe qui voyage bien parce que ça va être quand même la quatrième victoire depuis le début de la saison. Un nul du côté de Paris.
Ils sont meilleurs à l'extérieur que chez eux, je crois.
Exactement, ils ont pris plus de points. Ils en sont à 17 aujourd'hui, dont 10 pris à l'extérieur. Ce soir, ils vont être à 20 avec les 13 points, les 3 points d'employés. Ça fait 13 points pris à l'extérieur. Ils avaient fait le nul du côté de Paris. Les premiers à avoir fait trébucher le PSG cette saison. Mais c'est vrai que ça voyage bien. Il y a eu cet accident contre 3 qui a peut-être servi aussi d'électrochoc à ce groupe-là. Défaite 4-2 du côté de Louis II. Et c'est vrai que depuis, ça enchaîne, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, alors que là il y a un ballon qui va traîner la surface de réparation avec Golovin devant la surface de réparation qui va décaler Minarino et qui va frapper, et la belle intervention de Jonas Omlin. C'est pas terminé, le ballon qui revient dans les pieds de Vanderson, la frappe de Vanderson et encore une fois Jonas Omlin qui s'interpose parfaitement pour empêcher Monaco de marquer ce troisième but. Minamino qui a remplacé Wissam Ben Yedder, frustré d'être sorti parce que ce soir il n'avait pas marqué, lui qui était sur une bonne série depuis quelques matchs, le triplé, le doublé en Coupe d'Europe, et c'est vrai que il aurait bien aimé marquer et continuer cette bonne forme actuelle. Ben Yedder, il a donc été remplacé par Minamino. Il reste 1 minute 10 à jouer dans le temps additionnel. Le ballon perdu par Monaco, récupéré par TJ Savagnier qui a voulu retrouver Fetou Mawassa, et le ballon qui sera bêtement perdu par le MHSC qui a un calendrier compliqué pour ce mois d'octobre. Et c'est vrai que c'était le premier test, on va dire, pour les Montpelliérains qui vont se déplacer à Lens la semaine prochaine avant de recevoir Lyon dans 15 jours pour le retour d'un certain Laurent Blanc ici à La Mosson, l'enfant du club, celui qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du MHSC, et puis un déplacement à Rennes. C'est quand même 4 matchs très compliqués pour le MHSC dans ce mois d'octobre, et ça commence mal avec donc cette défaite inaugurale contre l'ASM, même s'ils aimeraient bien essayer d'aller réduire l'écart. Mais ballon récupéré par Monaco pour les 30 dernières secondes. C'est vrai que Manu, ce mois d'octobre pour les Montpelliérains, c'est un mois de tous les dangers qui pourraient les placer en difficulté dans ce championnat.
Ah oui, complètement, hein. Mais bon, tu sais, les matchs se suivent mais se ressemblent pas. Après, il faut un petit déclic, des opportunités. Ils sont bien allés gagner à Brest 7-0. Donc voilà, il va falloir digérer d'abord cette défaite et après essayer de revenir. C'est vrai que les matchs sont pas faciles puisque c'est contre des gros clubs qui jouent la troisième voire la deuxième place. Donc ça va être compliqué.
fini à l'instant ici à la Mosson sur cette victoire monégasque, 2-0, 5e victoire d'affilée pour l'ASM, ouverture du score d'Embolo juste avant la mi-temps, 2e but de Boadu, victoire de l'ASM ce soir, 2-0 sur la pelouse de Montpellier.
Merci beaucoup Julien Landry.
Merci Julien.
Pour ce match, merci beaucoup Manu.
Je te retrouve dimanche prochain.
La Ligue 1 continue évidemment sur RMC avec le multi dans quelques instants, 4 affiches au programme, l'intégrale foot à suivre avec Benoît Boutron.